Louis Georges. Bonjour. La légende! La légende, Chris! La légende! Et de Louis
mon
George.
Dieu, il parle de musique.
Ben,
OK.
On se voit pas souvent.
Non.
Là, on s'est vu dernièrement plus souvent.
Oui, oui.
On s'est connus sur Kazan 24 en 97, à 98. Puis, à partir de juste ce show-là, cette année-là, à chaque fois qu'on se croise, c'est jamais plate, c'est tout le temps drôle. Oui. On est capable de reprendre du vieux stock,
ah, ouais,
puis
ouais,
s'en
ouais.
aller, mais d'incorporer du neuf tout de suite. Il n'y a pas de...
Ah, oui.
Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de juste... Bon, ah, mais...
tu sais, on va couper sur le comment ça va.
Oui.
D'abord, on s'en crisse.
C'est vrai, je pense qu'il n'y en a jamais.
Ah non, non, non.
Il n'y en a jamais.
Non, non,
ça
deux,
part
trois...
dessus.
Ah oui, on a toujours deux, trois running gags, puis on part là-dessus, puis c'est vrai, t'as raison. Hein. C'est comme si on avait un piton, puis...
Mais je trouve ça agréable, parce qu'il y a une couple de même que je suis chanceux d'avoir, puis tu t'en rends juste compte, en tout cas pour moi, en vieillissant un peu, puis que tu fais comme... Ah, c'est... On se voit pas, mais c'est pas grave.
Oh, ouais.
Puis quand on se voit, c'est agréable.
Oh, ouais.
C'est comme à suivre. OK, bon, bon, oh, ben, c'est comme pause. OK.
OK. C'est ça.
C'est vraiment
on
fun.
Passe un message, oui. On revient. Puis c'est drôle parce que moi, j'appelle ça du velcro. T'sais. C'est-à-dire que dans le métier, des fois, il y a des gens qu'on voit pas pendant 15 ans. Puis à un moment donné, le velcro punk, chut. Puis c'est comme si on s'était vu la veille. Puis ça, c'est drôle. Ça, pour moi, c'est le comment je pourrais dire, c'est le gros plus de ce métier-là. Mm. Hey, ça va faire au-dessus de 45 ans que je fais ça. Puis des fois, je peux voir quelqu'un avec qui j'ai commencé au théâtre à Québec, dans un petit théâtre à s'arracher à la face puis à être payé des pinottes. Puis on a toujours 14 anecdotes en partant. Je suis un gars d'anecdotes, j'aime bien ça. Parce que dans la vie, on se souvient toujours d'anecdotes qui, elles, t'amènent ailleurs et définissent quelqu'un. Parce que, tu sais, une anecdote, ça peut être banal, là. Ça peut être, ah, il a échappé son livre. Puis on en rit. Ouais, c'est correct, mais on n'était pas là, là, tu sais. Aussi, là. Hey, t'aurais dû être là, là, on a ri. Ben non, j'étais pas là, calvaire. Fais-moi rire.
Quand
là,
faut
là.
Que tu dises, on a ri. Souvent, il faut que tu sois là parce que...
Non, c'est tout bad. C'est tout bad. Comme quand tu écoutes des bloopers à TV, le seul blooper qu'il y a pendant une demi-heure, c'est que quelqu'un a bafouillé son texte et ouais. Tout le monde a ri. Mais là, oh, calvette, oui, trouver quelque chose, là, c'est pas la peau, tu sais. OK.
Les moments sombres de la fricassée sportive.
Wow, d'où ça sort, ça? La fricassée.
Ben, il y avait ça à un moment donné.
Ah ouais?
Il y avait ça à la télé, les hommes, la fricassée sportive. C'était comme des bloopers de sport.
OK.
Puis des fois, c'est drôle, puis d'autres fois, échappé à balle.
Il a commis une erreur.
Mais j'aimais le nom, fricassée sportive.
Ah, il y avait à Québec les sabourinades du sport. Parce que le gars s'appelait Roland Sabourin. C'était le journaliste du Soleil.
Donc j'aurais dû appeler ça les dents de Nila, les dents de Nilade.
Ah ben oui, pourquoi pas. Bon. Ou les dents de lait de Louis-Philippe, tu sais, quand t'étais jeune, c'était le fun. Non, je ne vous rappelle pas, mais les sabourinades, je pense. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, il y avait à Québec, comment il s'appelait, Paddy Pedneau. Qui était l'espèce d'animateur radio. Et j'aimais ça l'écouter parce que de temps en temps, il y avait un petit cul que je connaissais qui était le frère d'une fille de ma classe au cégep. Il s'appelait Philippe Quentin, qui est devenu un grand journaliste puis qui est animateur. Et Philippe, à 14-15 ans, il appelait là puis il parlait de sport olympique, ce qui était vraiment complètement en dehors. Et moi, ça m'impressionnait de voir ce petit gars-là. Je me disais, tabarnouche, qui est brillant. Ben, aujourd'hui, Philippe Quentin...
Mais vous n'avez pas le même âge. T'es
non, il est plus jeune que moi.
Oui, c'est ça.
Moi, j'étais...
Mais tu étais encore à Québec dans le temps,
c'est ah, ben
pour
oui,
ça?
Ben oui, ben oui, ben oui.
Tu étais là combien? Ben, tu es né dans ce coin.
Oui, oui, je suis né à Québec, moi, puis j'ai quitté Québec à 33 ans.
OK.
Mais cette année, c'est bizarre parce que c'est ma première année où je vais avoir vécu plus à Montréal qu'à Québec.
Ah.
Et c'est vraiment étonnant parce que dans ma tête, je suis un gars de Québec. Puis c'est drôle parce que quand on est en vacances, ma blonde a dit toujours « Hey, as-tu lu ça dans le soleil? » Ça s'appelle la presse, Marie. Quand on n'est pas à Montréal, la presse s'appelle le soleil. C'est weird. Mais on est vraiment, elle et moi, des gens de Québec. Puis ça a été très dur de quitter Québec. J'aimais ça, là, tu peux pas
ben,
savoir.
C'est le travail.
Ben oui, c'est le travail. Ben oui, ben oui. J'étais toujours dans un autobus, puis j'étais toujours entre Québec
fait
et
que
Montréal.
Tu l'as fait au début.
Oh mon Dieu, pendant deux ans et demi à un moment donné. Puis j'avais fait une entrevue avec à Québec avec une journaliste qui s'appelait un nom que j'ai oublié. Et c'est de valeur parce que je l'aimais bien. Puis à un moment donné, elle m'avait demandé comment tu te sens face à ça de toujours être dans un autobus. Puis là, je disais, c'est rendu que je vois le chauffeur d'autobus plus que mes enfants. Puis j'avais lu l'article dans l'autobus. Fait que là, j'avais fait, non, là, c'est réglé. C'est comme si ça m'avait dit, hey, champion, là. Puis en plus, tu sais, dans l'autobus entre Québec et Montréal, à l'époque, en tout cas, là, ça sentait le petit pipi bleu.
Mais c'est
là,
pas ça que je me disais, espèce de senteur, sûrement une fragrance de fond d'autobus.
Ah non, écoute, c'était insupportable. C'était insupportable, cette odeur-là.
Oui.
Puis en plus, à l'époque, on pouvait encore fumer dans les autobus. Alors, il y avait un mélange de toilettes publiques, là, de festivals, où quelqu'un avait fumé juste avant que tu rentres. C'était vraiment, c'était plaisant. J'avais hâte d'arriver à Montréal. Mais effectivement, j'ai vraiment fait la navette pendant un bon 2 ans.
2 ans?
Ah oui, à peu près.
OK.
Puis le coup de grâce, ça a été... Ben, le coup de grâce. J'ai été chanceux. On m'avait demandé de jouer dans l'an 50. Et l'an 50, c'était comme un spring dans l'arrière, hein, pour la carrière à l'époque. Tout le monde écoutait ça. Puis ça m'a fait... Ça avait débloqué énormément.
Mais parlons-en de cette affaire-là, parce que ça, c'est une autre affaire qu'on a en commun.
Oui.
Différé.
Oui.
On s'est recroisé après ça quand c'est reparti, mais en différé. Oui. Mais c'est quelque chose que... Puis ceux qui écoutent le podcast le savent, parce que ça a commencé avec ces gars-là quand ils sont venus ici.
OK.
C'est que c'est la place où je me suis fait mes meilleurs chums.
Ah oui.
En travaillant. Tu sais, comme tu dis, tu règles le monde, tu vois plus, mais c'est vraiment la place où j'ai gardé, puis je me suis fait vraiment des bons chums. Puis ça a été comme tu dis, le spring dans le cul. J'ai vécu tout pendant cette affaire-là. J'ai été... Je me suis marié, j'ai eu des enfants, je me suis divorcé, je me suis trouvé... Tu comprends-tu, là, tu sais, là, tellement ça a duré longtemps, là, que j'ai un gros chunk de ma vie qui était là-dedans.
Oui.
Puis... Ça, c'est un autre lien qu'on a ensemble, mais toi, c'est de la première édition.
La première édition.
Comment donc, comment toi, ça, c'est arrivé?
Oh, mon Dieu. C'est une drôle d'histoire. C'était la deuxième année.
Okay.
Et il y avait eu, Jean-Claude Lard ne le faisait plus, c'était Richard Martin, et Richard avait décidé de faire certains changements. Puis, à un moment donné, je reçois un coup de téléphone qui me demande, peux-tu être à Davos dans 2 semaines pour tourner dans l'an 50? Tu fais, si bol, j'étais en train de jouer dans les Jumeaux vénitiens, je pense, au Trident, tu sais, puis comment veux-tu que je me ramasse en Suisse à 2 semaines d'avis, tu sais? Puis finalement, le metteur en scène, Guillermo De Andrea, à qui j'ai demandé, bien, il m'a aidé.
Mm.
Quelqu'un m'a remplacé pendant les 3-4 journées où je pouvais pas jouer, et parce qu'il était conscient de ça, il dit, écoute, c'est évident qu'une chance comme ça, c'est énorme. Tu sais, moi, j'étais comédien à Québec, je jouais dans des théâtres, là, même ma mère ne me connaissait pas, là, tu sais, c'est ce que tu veux. Puis pourtant, on faisait des maudites bonnes affaires, puis on faisait des mots, juste de belles choses, mais on n'avait pas la diffusion de la télé. Alors, du jour au lendemain, je me ramasse à Davos, en Suisse, à tourner avec Sylvie Bourque, qui faisait l'autre journaliste, et Denis Bouchard.
Linda Hébert.
Linda Hébert, ben, c'est
Linda
ça.
Hébert.
Et... Bing bang, du jour au lendemain. Et écoute, ça n'avait pas de bon sens, la chance que j'avais. Puis, tu sais, t'es dans l'avion, tu sais, puis quelqu'un, tu rencontres quelqu'un qui. Ouais, je m'en vais tourner en Suisse. J'ai-tu dit ça, là? Tu fais tabarnouche, tu sais. Du jour au lendemain, là. Puis en arrivant ici, c'est évident que ça avait tellement eu d'impact dans ses comptes que j'ai eu des demandes pour jouer dans 2 téléromans tout de suite en revenant. Alors, ça a été, oui, ça a été énorme.
Mais t'étais-tu consciente, d'abord, que. Ben, dans le sens. Tu sais, ça a été marquant la première saison de l'an 50 parce que c'était comme la première grosse série où ce que c'était
mais
pas
j'étais
des murs
pas
à
dedans,
carton.
Mais
non, ça, je le sais.
C'est ça.
Mais tu as été au courant que ça avait joué.
Hey, le cave.
Parce qu'à Québec, tu viens de Québec, c'est le national, ils ont tourné là-bas.
Ben oui, les Nordiques, qu'est-ce que tu veux, c'est le national, c'est les Nordiques. Là. Ben puis moi, j'étais un maniaque des Nordiques. Fait que, tu sais, j'écoutais cette émission-là, religieusement, tu sais, en me disant, maudit que j'aimerais ça jouer là-dedans.
Fait quand ils ont appelé, c'était pas juste. Mais tu te souviens-tu comment. C'était-tu... T'as-tu fait comme qu'est-ce qui se passe?
Ben,
tu sais, un peu que...
Ben oui, mais ben non, mais c'est parce que je savais que je pouvais pas le faire. Je me souviens encore, c'était un téléphone que j'avais. Tu sais, dans le temps qu'on mettait des dizaines d'un téléphone, j'étais au Grand Théâtre, juste avant un spectacle, puis c'est écrit rejoindre Richard Martin. Je savais c'était qui, sacremouille, tu sais. C'est comme si c'était qui, pouvez-vous rappeler Benoît XV? Oui, c'est pas long, Rome. Bon, tout ça pour dire que je l'appelle, tu sais, puis je me souviens encore au téléphone, je faisais... Je peux pas. T'sais, ça faisait, je peux pas. Puis, à un moment donné, je me suis encore, il y a un des comédiens à qui je raconte ça, puis il dit, mais est-il cave? Demande-le à Guillermo, au moins. Au moins, demande-le. J'ai dit, mais non, il voudra jamais. Puis finalement, il a voulu.
Wow.
Oui, c'est un gros, gros coup de chance. C'est évidemment... Tous les comédiens qui ont eu une carrière un petit peu, qu'on a vu beaucoup à la télé, ont tous eu un petit coup de chance.
Ouais.
Puis l'autre coup de chance, il est drôle aussi, parce que Richard, c'était le conjoint d'Élisabeth Chevalisé, que je connaissais à cause de l'Union des artistes. Puis à un moment donné, je faisais une annonce, je pense que c'était le Vignier, Puis à un moment donné, Richard Martin fait « Il est drôle, ce gars-là, mais paraît que c'est pas un acteur. » Pourquoi je l'imite comme ça? Il parlait pas de moi. Puis, à un moment donné, Elisabeth dit « Bien sûr que c'est un acteur. Je l'ai vu au Bois de Coulon, j'étais passé. Il est très bon. » Parce qu'Elisabeth avait dit à Richard que j'étais un acteur, elle m'avait joué au théâtre.
C'était coché. Ah,
ah, OK.
Ça se peut.
Alors, évidemment, Richard devait donner beaucoup de crédibilité à sa conjointe, qui est une grande actrice, quoi, dit en passant. Alors, je pense que ça vient d'Elisabeth. Wow. Ah oui. C'est drôle, des fois, les liens qu'on peut faire à posteriori. Mais je pense sincèrement que je dois à Elisabeth une bonne partie de ma carrière télévisuelle.
Puis ça a-tu été... parce que tu arrives... tout dépendant, tu en as fait des séries aussi, ou des fois tu arrives dans saison 2 ou saison 3, tu sais. Ouais. Des fois, le cocon est fait, disons. Oh, tu arrives en périphérie, puis bon,
c'est ça,
arrête, ouais. Là, mais sans plus. Fait que toi, quand tu es arrivé avec ça, parce que de moi, mon souvenir, tu dis que tu n'as pas été dans la saison 1, je te crois, mais... J'ai l'impression que dans l'inconscient collectif, tu étais là du début à la fin, puis vous étiez comme un trio.
Oui, bien,
je comprends-tu, vous étiez comme un triangle, vous trois, puis vous aviez chacun vos caractères, qui faisait que, bon, quand un tirait l'autre, les deux tiraient de l'autre bord, ou
Mais
c'est ça le feeling que j'ai, là, tu sais.
Bien, il y a eu aussi une belle complicité avec Denis.
Okay.
Parce qu'à un moment donné, il y avait comme un imbroglio, à savoir, en tout cas, dans nos deux personnages, on jouait quasiment le même personnage, tous les deux. Puis à un moment donné, on s'est regardé, puis je sais pas qui a eu le flash entre les deux, mais j'ai fait « OK, il y en a un qui va servir la soupe, puis l'autre qui va puncher. » Puis ce qui est arrivé, c'était ça. C'est que je donnais souvent le setup à Lulu qui punchait, parce que Denis, il a un style sens du punch.
Yes.
Alors des fois, ça donnait des petits moments extraordinaires. Puis Denis, qui est un créateur, Denis, puis bon, c'était connu à la LNI, des fois, il y avait un flash ou j'avais un flash, puis on disait, hey, on devrait peut-être essayer ça. Puis là, des fois, on disait à Richard Martin, avant de tourner en scène, hey, Richard, on a une petite idée. Ouais, c'est quoi? Non, il faisait notre petit sketch rapidement. Tabarnak, que vous êtes drôle, on le met. Fait que c'est soudainement arrivé. Je sais pas pourquoi j'imite comme ça, Richard. Je sais pas. Mais il roulait un PCR, mais je l'aimais beaucoup. Soit dit en passant, quand il est décédé, j'ai eu beaucoup de peine. Okay. Mais Richard, c'était ça. C'est que des fois, il nous voyait tous les deux, puis il disait « Chris, que vous êtes malade. » Puis on embarquait. Puis s'il y a quelques jokes dans l'ancien compte que je sais très bien que c'est Denis, qui est, Denis et moi qui les avons amenés. Puis je pense pas que Régent Tremblay s'en soit plaint, parce que souvent, c'était drôle, puis...
Si c'est bon, il s'en plaindra pas.
Ben, un cave, tu sais. C'est un cave.
C'est moi qui ai écrit ça.
C'est ça, tu sais. Puis... Mais je te l'avais raconté, cette anecdote-là, parce que moi, j'arrivais sur l'ancien compte, et une des premières répliques que j'avais à dire, c'était, Pierre Lambert.
Ouais.
Et ça, il faut Carl Marotte. Pierre Lambert et France Zobda, la comédienne qui jouait sa blonde là-dedans, elle arrivait, puis mon personnage disait, tiens, voilà Pierre Lambert avec sa N-word. Et là, j'ai fait, oh non, je vais pas dire ça, là. Mais... T'arrives sur un plateau, puis à l'époque, hein, ça se pouvait dire ça, là. Ouais. Sauf que j'étais pas bien dans ça. Puis à un moment donné, j'ai eu un flash, puis j'ai dit à Richard, j'ai dit, j'aime pas ça dire ça, ben, que je te dirais à la place, tu sais. Parce que, tu sais, il y avait d'autres choses à fouetter qu'un acteur de Québec qui voulait pas dire un mot, là, tu sais. Fait que j'ai dit, laisse-moi essayer quelque chose. Et là, j'ai pensé au Capitaine Bonhomme. Capitaine Bonhomme, il faisait des histoires à un moment donné, là, tu sais, des histoires. Puis il y avait toujours un personnage qui s'appelait Mademoiselle Petits Oiseaux, qui était une jeune fille noire, et il l'appelait la Perle des Caraïbes. Alors, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, voilà Pierre Lambert avec sa Perle des Caraïbes. Richard Morgan, parfait. Nice. On l'a gardé comme ça. J'étais tellement content. Parce que, vois-tu ça aujourd'hui, 35 ans plus tard, puis on dit, ah, voici, à l'époque, on pouvait encore dire ça, puis bang, ma grosse face qui dit le N-word. Ah non, j'aurais été malheureux comme les pierres, tu sais. Et France Zobda, une autre anecdote pour elle. On s'entend que France Zobda, c'était une très, très belle femme. C'était une beauté rare, tu sais. Et en plus, elle avait un record mondial dans la couleur de ses yeux, tu sais. Puis bon, c'est drôle parce qu'on avait un point commun une certaine journée. On se rendait à l'hôtel... Et elle arrivait de Martinique ou de Guadeloupe, je ne me souviens plus du pays, l'endroit d'où elle venait, mais en tout cas, une de ces deux îles-là. Mais moi, j'arrivais de Québec en autobus. Mais nos taxis sont arrivés en même temps. Alors, à l'hôtel où on était, je peux te dire qu'elle était juste en avant de moi. Écoute, le portier, en tout cas, ils sont arrivés 5 gars pour y prendre sa valise. Puis à un moment donné, moi, j'étais là, personne ne s'occupait de moi. Et c'est là que je me suis dit dans ma tête, Chris, je serais tout nu en raquette que personne ne verrait, tu sais. Parce qu'effectivement, quand France Zobda était à quelque part, c'était soyons francs, là, tu sais, je pense pas leur avoir des matchs en disant ça. Là, c'est simplement que.
Je pense pas qu'apprécier la beauté de quelqu'un.
C'est... Non, je pense pas.
Puis il y a du monde qui vont transcender. C'est comme j'ai des amis qui ont travaillé avec Monica Bellucci, disons.
Okay.
Puis en fait, elle rentre dans la pièce, et... tu la vois pas. Puis il y a comme un...
Il y a un courant d'air.
Il y a quelque chose. Oh, puis oui. Ceux qui la voient, oups, non, on arrête de parler. Il y a comme... Tu fais bon, mais gars, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Puis c'est pas... Je vois pas comment ça peut être au détriment de quelqu'un de dire... C'était une beauté phénoménale. Oui.
Et elle était d'une très grande gentillesse, oui,
en
passant.
En plus.
Oh, oui. Puis ça, c'est drôle. Là, je passe un coq à l'âme, mais il y avait aussi celle qui jouait la mère de Pierre.
Oui.
Macha Meryl.
Oui.
Qui était d'une.
Malusia.
Qui était d'origine russe, je ne sais pas trop quoi. C'est ça. Et elle aussi, elle était d'une grande gentillesse. Ah, j'ai plein d'anecdotes, c'est drôle. Puis, à un moment donné, on tournait à un moment donné à Deauville, puis moi, le cave, tu sais, il m'amène à Deauville pour tourner une journée où ce que j'avais à peu près rien à faire, avec les per diem, l'avion payé, le cave. J'allais passer une semaine à Paris, je m'en vais au cinéma, je vais voir le film qui me tente. C'est Macha Meryl que j'avais vu 2 jours avant qui jouait avec Julie Andrews. Fait quoi? Quoi? C'est-tu moi qui vis ça? T'sais, effectivement. Et Macha Meryl, ben oui, c'est une grande actrice, t'sais. Mais elle était dans l'ancien compte. Alors, tu sais, il y a des gens qu'on croise qu'on penserait jamais avoir un certain lien. Et ce qui était drôle avec Macha, je pense. En tout cas.
Il me semble que c'est Macha.
Macha Meryl.
Mais écoute,
je comprends. Alors là, je peux pas dire que c'est ma grande amie. J'ai de la misère à dire son prénom, mais j'ai quand même bien aimé la rencontrer. Puis à un moment donné, j'avais vu un extrait, je reste du gars qui est toujours à Paris, mais ça a donné de même. J'avais vu un extrait de Cogne et Gang, mais doublé par des Français.
Donc l'ancien compte qui est devenu Cogne et Gang.
Cogne et Gang. Puis là, à un moment donné, je disais, mais regardez ça. Puis à un moment donné, je voyais Marc Messier puis Sylvie Bourque qui avaient une scène ensemble. Moi, est-ce qu'en français, c'est pas parce qu'on est déjà sortis ensemble que je vais te donner des scoops. Puis à la française, c'est pas parce qu'on est déjà baisé que je vais te dire des choses. Tu fais quoi qu'il a dit ça? Puis à un moment donné, je vois arriver Michel Forgette. Chris, il avait la voix de Tony Curtis quand j'étais petit. Écoute, je roulais par terre, puis ça faisait, ben voyons donc, c'est pas ça pantoute, puis ça parlait vraiment le trou de cul de poule. Fait qu'à un moment donné, je sais pas ce qui m'a pris, à un moment donné, j'étais en tournage, puis il m'a venu... Ah, oh, qu'est-ce que je suis innocent. J'avais une scène que c'était... OK, ils ont peut-être pas l'air d'être bien, bien méchants, les Russes, mais va dans la chambre des joueurs, tu vas voir que nos joueurs, ils sont blessés parce qu'ils sont hypocrites. Et là, j'ai dit, OK, ils veulent la doubler en français, ça, là, ben, j'ai été doublé en français, moi aussi. À un moment donné, j'ai dit une phrase dans le style « Ouais, tu penses que son main n'est pas pof? Check bien, vous dans la salle des joueurs, tu vas voir qu'ils sont sauvages, la gang de tabarnane ou d'enfants d'anane. » Alors là, à Paris, ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Et ils ont appelé M. Meryl en disant « Ben, vous comprenez le Québécois, alors essayez de nous traduire ça. » Ça a l'air qu'elle regardait ça et fait « Je comprends pas. » Allez voir les pop-offs dans la salle des joueurs, vous allez voir qu'ils sont hypocrites, la gang d'enfants de nanane, imagine-toi. Et ils ont fait un mémo qu'ils ont envoyé chez Claude Héroux Productions pour demander
de l'aide,
au secours. Tout ça parce que j'avais fait mon fraîchier, mais en même temps, je peux au moins te le raconter aujourd'hui.
C'est drôle.
Ben oui, c'est drôle. Tu sais, écoute, va voir les pop-offs. En tout cas, la gang d'enfants de nanane, ça, je m'en rappelle, j'avais dit ça, écoute, il n'y avait rien à comprendre, c'est bien. Voilà.
Mais c'était carrément. Fait que vois-tu, tout ça, puis ben, juste pour rester là-dessus, sur le doublage de ça, tu sais, maintenant, j'ai fait, si je me souviens pas, un film américain mauvais, là, juste pour la télé, et c'était un de mes premiers, puis un moment donné, ça passe à la télé ici, c'est doublé, tu sais, ben, je fais, fait que je vais m'écouter, voir, ils m'ont tellement donné une voix de marde. Que, mais Louis, après, là, dans tous mes contrats, quand j'ai travaillé soit avec les Américains ou au Canada anglais, c'était écrit
« Je me double ».
Ouais. Ah ouais. Après ça, toutes les autres affaires, je faisais, c'était doublé ailleurs, souvent. Oui. Revenu à Montréal, je me faisais, puis j'ai dit « c'est fini, là. Ben, c'est fini, là, la voix juvénile qu'ils m'ont donnée, là, j'ai dit, voyons donc. »
C'est drôle, parce que j'avais jasé de ça avec Benoît Rousseau, qui est un grand directeur aussi, puis un grand doubleur. Puis c'est ça qu'il m'avait dit, il dit « En France... » les voix remontent toutes.
Oui, il y a un petit...
Il y a comme une espèce de ton ennemi, là, que ça, tu sais, coince une chenolle un peu, puis wouh! Puis ça m'a fait drôle, ça m'a fait, ah ben, je comprends pas pourquoi. Puis à un moment donné, j'étais au baseball, ici à Montréal, puis je parlais, puis j'étais avec ma fille, blablabla, bla, 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 puis un monsieur qui se tourne, puis il dit, vous êtes Louis-Georges Girard? J'ai dit, tabarnouche, oui. Et il dit, c'est parce que c'est moi qui vous double en anglais.
Wow.
Ouais, j'étais resté vraiment bête. Puis, je sais pas, il y avait une belle voix, il faut croire, mais c'est ça. Ça m'a fait rire parce que j'avais fait une affaire à Radio-Canada, c'était Laurier, puis c'était français-anglais, puis je pense qu'il m'avait doublé. Puis il y a certaines des productions, tu sais, dans ses comptes,
ouais, mais c'est juste à dire, ouais, mais la seconde, c'est-tu juste la première saison qu'il avait fait français-anglais?
Première.
Parce que toi, quand tu étais là, tourniez-vous français-anglais?
Ah, français-anglais, oui.
Mais qu'est-ce que tu faisais avec l'anglais d'abord?
Ah, je parle anglais.
Oui.
Puis j'avais une English coach.
Oui, oui, ben oui.
Puis, mais un moment donné, il y avait une scène. Oui, d'ailleurs, ben oui, c'est vrai, il shoot his course.
Ben, il y avait.
Oui, il y avait les deux. Il y avait les deux.
OK, c'est ça.
Mais c'était drôle parce que dans ces affaires-là, un moment donné, c'est comme s'il y avait une espèce de tour de Babel. C'est-à-dire qu'on était quatre autour de la table, puis il n'y a pas un soda qui avait le même accent.
Non.
Puis, on était supposé être quatre Américains ou quatre personnes. Non, pas quatre Américains. On était des Québécois.
Mais au moins quatre anglophones.
Supposément anglophones, tu sais. Puis, ça marchait pas. Parce que, qu'est-ce que tu veux, les quatre accents marchaient pas. Mais moi, j'aimais ça parce que je pense que je parle assez bien anglais. Mais ça me prend quand même un coach parce que, tu sais, j'ai auditionné pour des films américains. Puis, américain, puis tu sais, après trois secondes, ils le voient. Ben, si, voyons donc. Mais, francophone. Get out of here!
Mais ton anglais, tu l'avais pris de où? Parce que si,
ouais,
c'est pas un
Québec,
jugement, mais comme ouais, tu viens de Québec,
ouais,
des fois, c'est l'anglais est encore plus repoussé.
Veux-tu mais non, mais la version mais longue, la version courte?
Ben, la version longue, j'ai loué ça pour une heure et demie.
Excellent! Mais ça dépasse pour vous, tu payes. Chez nous, l'anglais était très valorisé.
Mm.
Parce que mon père, qui vient de Saint-Grégoire de Montmorency, peu importe, avait travaillé à l'Anglo-Pulp. À Québec, l'Anglo-Pulp, c'était une grosse usine de papier. Et comme on le nom dit, Anglo-Canadian Pulp and Paper, c'était des anglophones qui étaient propriétaires de ça. Et à l'intérieur, beaucoup de gens se parlaient en anglais. Et même des francophones. Et là, je reviens à mon ami Philippe Quentin. Son père avait travaillé avec mon père à l'Anglo-Pulp. Mmh. Et souvent, les gens, deux francophones, se parlaient en anglais. « Hey, listen, Paul, give me the paper. Of course, I'll give you the paper and the pencil, too. » Tu sais, alors, mais mon père, qui parlait un peu anglais, valorisait beaucoup l'anglais. Donc, quand ton père valorise l'anglais, tu veux te faire aimer par ton père, bien, tu veux apprendre l'anglais. Alors, moi, j'étais allé dans des camps de vacances en Ontario.
Fait que c'est-tu toi qui avais demandé d'aller dans ces camps-là?
Non, mon frère l'avait fait avant moi. Il m'avait raconté ça. C'était exceptionnel. Ça s'appelait les Taylorstown Camps. C'est les mêmes camps où allaient les Trudeau.
OK.
Alors, c'est pour te dire que c'était pas des camps de trou de pète, là. Mais on allait là comme employés. Alors, ils nous donnaient 25$ puis ils nous payaient le train. Mais moi, je passais l'été à faire du canot-kayak, de l'équitation. Écoute,
il y a quelques... comme moniteur là-bas?
J'étais, ça s'appelait CIT, Counselor in Training.
OK, ah, OK, c'est ça.
Et
fait que t'as pas de salaire, mais ça te coûtait rien.
À peu près, la première année, deuxième année, ouais, mettons, ils montaient ça à 125 pour l'été, attention.
Mais t'étais-tu devenu counselor la deuxième année ou t'étais encore une
training? Non, j'étais devenu WAP guide, qu'on appelle. C'est-à-dire que le camp Wapomeo, c'était des guides qui faisaient des voyages en canot, en camping.
Yeah.
Et c'est ça. Puis... Puis c'était des gens pauvres qui étaient là. Je me souviens qu'il y avait une petite fille qui s'appelait Kathy Molson. Puis j'avais dit, where are you from? Tu sais? Puis elle m'avait dit, well, I'm from Montreal. Puis là, j'ai dit, moi, les seuls que je connais à Montréal, c'est les Molson. Yeah, that's my daddy. C'est la fille de David Molson. Puis à un moment donné.
La misère des riches.
Ah oui. Hey, on est des anecdotes.
Ben oui. Mais c'est juste.
Oui, oui. Go! Puis il y avait une petite fille qui s'appelait Julia Taft. À un moment donné, je placote avec, puis à un moment donné, oui, tu sais, Louis, je peux te dire que j'ai beaucoup aimé le Québec parce que j'y vais l'été. Je dis, ouais, you're from New York. Oui, oui, elle, imagine-toi, son grand-père avait fait construire un chalet à Pointe-au-Pic. Ça s'appelait The Canadian White House. C'était la petite fille de William Taft, le président des États-Unis.
Wow.
C'est pour te dire que. Dans ces camps-là, tu rencontrais des gens absolument incroyables, tu sais. Puis, c'est ça, elle allait passer ses étés à la résidence que son grand-père avait fait construire, donc en étant à Pointe... C'est Pointe-aux-Pics, Murray Bay, tout ça? En tout cas, peu importe, c'est dans Charlevoix, là. Ouais. Et, évidemment, les voisins, tout ça. Mais c'est tellement cute quand tu vois une petite fille de 15 ans ou 14 ans qui te met à te parler en français, puis avec des intonations québécoises, mais avec l'accent anglophone, puis t'apprends que c'est la petite fille d'un président américain, tu fais « sacre mouille, where the hell am I? »
C'est nice.
Mais c'est ça, j'ai appris à parler anglais, là.
Mais en même temps, c'est tellement la meilleure affaire. Puis c'est la meilleure chose. T'es dans un milieu. Fait que t'as pas le choix. Là.
Ben oui.
Puis ça comme OK, puis ça vient, puis ça part. C'est donc bien nice.
J'ai une autre anecdote. Comment il s'appelait le petit gars? Ben c'est ça. Il y avait des petits-enfants, des fois. Parce que ce camp-là, il voulait avoir des francophones en emploi parce que beaucoup de gens relativement aisés envoyaient leurs enfants-là pour apprendre l'anglais.
Okay.
Alors, tu sais, des Québécois, tu sais. Et c'était bon qu'il y ait de temps en temps des Québécois au cas où l'enfant, à un moment donné, perd ses repères, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui peut lui dire, c'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, quand arrivaient les campeurs en deux sessions, là, il y avait un mois, à un moment donné, il y avait deux petits gars, c'était Bill et James Jessup. Fait que là, Bill et James, fait que là, évidemment, « Hi, Bill. Hi, James. My name is Louis. I'll be your counselor in training. I'll take care of you. I'll show you how to paddle. » Un petit gars me regardait, là, vide, béride. OK, I'll do it again. Hi, you're Bill, you're James. Bill and James Jessup. My name is Louis. Louis Girard. I'm from Quebec. Un petit gars, il se tourne vers son frère, puis il dit, « Elle comprend pas, le monsieur! » C'était deux petits Québécois qui avaient des noms anglophones, puis moi, je lui parlais en anglais, puis ils comprenaient pas un traître mot. Fait que... C'est une anecdote, tu vas me dire, mais j'avais...
Ils ont dû revenir à la vie quand tu leur as parlé français.
Ben, j'imagine, oui, mais c'est parce que c'est moi qui a manqué de respiration quand j'ai entendu « Je comprends pas, le monsieur! » Anyway. Hey, j'ai nommé les anglais.
Mais non, mais c'est parfait, puis c'est le fun, parce que ça, j'avais aucune idée que t'avais appris l'anglais là.
Mm-hmm.
Pour ces raisons-là, mm-hmm. puis dans ces camps-là de même, parce que c'est pas une légende là, que t'étais avocat.
Non.
Right? Peut-être, je sais pas, parce que selon certaines personnes, tu mens. Donc...
Ça, c'est une anecdote qu'on peut pas compter, c'est dommage, mais ça, c'est l'un des trois. Tu mens.
Parce qu'avant de devenir comédien, c'était ça, tu t'es dirigé vers ça.
Oui.
Quelles raisons t'ont amené là?
OK.
Avant de faire... Non,
la version longue,
parce que la version longue va nous amener sur des petits chemins de campagne.
Oui, sûrement. Mon père est encore là-dedans. Mon père a toujours fait un... a toujours voulu faire...
Rapproche-toi du micro.
Okay. Mon père a
non,
toujours...
mais tu peux le rapprocher.
OK, oui. Mon père a toujours voulu faire un cours universitaire.
OK.
Mais, pour des raisons, à l'époque, il venait à Saint-Grégoire, son père était marchand général, mais bon, ils n'ont pas eu... Mais il a quand même fait son cours classique. Mais il nous avait toujours dit aux quatre enfants, vous n'aurez pas d'héritage. Vous allez avoir un papier signé en bas comme quoi vous avez un diplôme universitaire. Ça, c'était le rêve de mon père.
Mmh.
Alors, j'étais un enfant assez turbulent.
Vous étiez combien chez vous?
Quatre.
Pas de couper. Toi, tu étais où dans le milieu?
Le dernier.
C'est le bébé.
Qui était médecin,
toi,
qui était
le bébé.
En psychologie. Ouais, okay. Je suis le bébé.
Okay.
Puis les quatre, on est passés par l'université. Puis vers la fin, je commençais à trouver ça rough en tabarchiniche. Tu sais, le cours de droit, là. Ouh, tabarouette. Puis j'avais commencé à faire du théâtre avec la troupe des 13 de l'université là-bas. Mais je me disais, faut que je finisse parce que je vais crucifier mon père en faisant ça. Puis j'ai fait le barreau. Ça a été tough. Ça, je vais te le dire. Là. J'ai arrêté de faire du théâtre. Puis pendant 8 mois, là, j'ai étudié et j'ai repris tout le temps que j'avais perdu à l'université à faire du théâtre puis à pas trop étudier. Et finalement, j'ai passé mon barreau.
Mm.
Et je me souviendrai toujours, j'avais fait un stage dans un bureau en droit criminel. Puis j'étais pas pire. On va être franc, là, quand même que j'étais pas pire. Et... Le patron, appelons-le Narcisse Proulx, parce que c'est son nom, et il invite mes parents à prendre une bouteille de champagne pour fêter le fait que j'avais passé mon barreau, puis que j'étais assermenté, puis etc., etc. Et tout de go, Narcisse dit, on va l'engager au bureau, et il m'avait fait l'offre. C'était de l'argent. Ça fait offrir 18 000 piastres à presque 50 ans, puis après ça, une association... au bureau, c'est énorme. Puis là, j'ai vu mon père se soulager en se disant, bon, le petit Chris y est placé, je peux respirer. Mm. C'est parce que ce que mon père savait pas, c'est que j'avais fait mes auditions au conservatoire. Puis j'avais été accepté.
Ça, c'était au Conservatoire de Québec?
De Québec, de Québec. Et avec, imagine-toi, j'avais un 2 de pique pour me donner ma réplique, qui s'appelait Rémi Girard. Fait que lui, encore, quand on jouait, je répète tout nu en raquette, il m'aurait pris pareil parce que Rémi était tellement bon que j'avais juste à dire, ben oui, ça marchait. Ah non, non, j'ai été chanceux. Tout ça, oui, j'ai fait mes auditions avec Rémi. Et tout ça pour dire que mon père était bien, bien content. Mm-hmm. Mais le lendemain, je suis passé à la maison pour lui expliquer. Je lui ai dit, écoute, papa, je te remercie, je l'ai fait ce que tu m'as demandé, je l'ai mon diplôme, je suis avocat. Mais maintenant, il faut que je te dise une chose. Je m'en vais au conservatoire. Et mon père, je pensais qu'il allait... Je me suis dit, si j'ai dit ça, il y a un coup de douze dans le front, il aimerait mieux ça. Et il m'a rien que dit, OK, j'ai fait ma job. Maintenant, tout ce que je te demande, c'est d'être utile à tes semblables. Fait que les 34 calices d'années que j'ai été à l'Union des artistes, c'est pour ça.
Wow.
Ouais. C'est carrément ça. C'était ça. C'était une dette que j'avais envers mon père.
Mmh. Wow!
C'est vraiment c'est long,
beau.
Un petit peu.
Non, c'est beau.
Oui, oui, je sais bien, mais c'est ça l'histoire. Et, mmh. Mais ça m'a permis de rencontrer des gens parce que le bureau où j'étais, moi, je travaillais l'été. Donc, c'était ma job d'été. Et je remplaçais les avocats. Donc, j'embarquais dans les causes pour vrai. Là. Alors, puis c'était de droit criminel. Alors, j'ai rencontré des
Tu l'as fait pendant combien de temps?
Trois fois quatre mois.
OK.
Et par après, je faisais des comparutions du samedi matin à Québec. Parce que la loi veut qu'une personne arrêtée doit comparaître dans les 24 heures, mm-hmm. sauf la fin de semaine. Mais le samedi matin, il doit comparaître. Le dimanche, il ne comparaîtra pas, c'est fermé. Mais une personne doit comparaître le samedi. Je ne sais pas maintenant comment c'est, parce que ça va être trop vite. Bon. Puis, je faisais ça. Et c'est drôle parce que c'était le fun le samedi matin, parce que le bureau avait beaucoup de clients. Et pourquoi il me demandait de faire ça, d'être là le samedi matin, c'est que si un client se faisait arrêter le vendredi soir, le samedi matin, il allait prendre un autre avocat puis il allait l'échapper.
Il perdait le dossier.
C'est ça. Alors, c'est bon. Moi, en comparaissant, par les trois quarts du temps, je les sortais sur le cautionnement, là, parce que c'est pas toujours des soirs, tout ouais. ça. Alors, c'était ça, ma job. Mais le samedi matin, j'allais déjeuner avec les gardiens puis les autres avocats. Et devinez avec qui j'ai déjeuné le plus souvent? Jacques La Rochelle, un des plus grands criminalistes de l'histoire du Canada, tu comprends bien,
wow.
et une personnalité hallucinante. Le gars, il avait 7 enfants, je pense. Il avait une vieille Volvo. Et les fins de semaine, avec sa conjointe de l'époque, il allait jouer du violoncelle. Puis lui, je pense qu'il jouait du violon. Puis il allait dans des endroits de gens âgés pour aller leur faire de la musique. Et si ma mémoire est bonne, ce gars-là avait fini son bac à 18-19 ans, puis il est allé faire une maîtrise à la Sorbonne, et il avait donné sa thèse écrite en latin. Jacques La Rochelle, là, si on me dit que c'est un imbécile, ben moi, je suis une crotte de nez. Là. Mais croiser des gens comme ça...
Mais tu étais déjà au courant de qui était cet homme-là.
Il n'était pas encore cette grande sommité-là. Okay. C'était déjà l'avocat que le monde disait « wow ».
Okay.
Tu sais, c'est mettons Wayne Gretzky à 18-19 ans.
Il était déjà,
ça faisait aussi okay. bol. Tu sais, peut-être qu'il était plus que ça, mais moi, il m'impressionnait.
OK. Mais tu savais au moins. Tu savais comme...
Ah non, mais c'était clair. C'était clair que ça allait devenir un grand criminaliste, mais c'était surtout un être humain fascinant. Mm. Peut-être qu'il y a des détails, là. Peut-être qu'il avait 8 enfants, il en avait 6, j'en sais rien. Puis qu'il jouait du piccolo, là, je sais pas, mais...
J'aime mieux qu'il joue du piccolo.
C'est plus drôle, hein? Piccolo et grosse caisse, il me semble que ça doit être le fun, ça, dans un...
Je pense que c'était le nom de leur band.
Hein? Oui, piccolo et grosse caisse. C'est fin. Mais c'est pour te dire comment j'étais impressionné par cet homme-là. Et c'est ça que je... comment je pourrais dire? C'est de ça dont je vais me souvenir le plus de ma période avocate, c'est que j'ai croisé déjà un gars comme Narcisse Proulx, qui est devenu juge par après, est un être humain fascinant. J'ai croisé plein de gens comme ça. Et ça, c'est des beaux souvenirs. Mais j'aurais pas pu rester criminaliste trop longtemps. Parce que c'est très difficile. Parce qu'ils ont toutes la même réaction. Et là, je vais tomber sur Donald Trump. Là. Ils ont toutes la même réaction. C'est pas moi. C'est un frame-up de la police. J'ai rien fait. Mmh. Trump, c'est pas moi.
Ouais.
J'ai tout été correct. Puis c'est une chasse aux sorcières. Et pourquoi Trump se débat pour dire tout ça? C'est parce qu'il sait, quand il va rentrer en cour, la preuve, c'est sûr que le procureur américain, il s'en va pas en cour avec l'ancien président américain sans avoir des preuves en béton. C'est
comme une
cassette,
dans le fond, tu disais, là, comme, c'est pas moi, c'est...
Ben, c'est
personne n'est jamais
ça.
Responsable.
C'est ça. Mais c'est parce que ouais. ça arrivait souvent ouais. que j'avais ça. Okay. Et ce que j'aimais, par exemple, dans notre bureau, on faisait beaucoup du plea bargaining, c'est-à-dire que je m'entendais avec le gars de la couronne puis je disais, écoute, je suis prêt à plaider coupable, mais ça me prend une sentence qui va avec la patente.
Ouais.
Alors, puis je veux pas trop embarquer parce que là, c'est délicat, mais il y a des causes, des fois, que, ben, n'ayons pas peur des mots, là, les causes, dans le temps, ça s'appelait le viol, là, c'est, ouais. c'est des agressions sexuelles. Et moi, je savais que faire témoigner la victime, c'était presque lui faire revivre.
Pas presque. Je pense que tu faisais que c'est sans, ça, c'est ça. Sans l'attouchement, c'est ça.
Alors,
mais...
Alors, c'est là que je voulais pas aller. Et j'allais toujours plaider coupable pour pas... Bien, évidemment, il fallait que je convainque mon client aussi, là, parce que si la preuve était pas bonne, bien là, il fallait que je fasse ma job aussi de le défendre. Mais quand la preuve était accablante et tout ça, je disais, on s'en va pas là, parce qu'on va être obligé de faire témoigner la personne. Puis... Je ne sais pas si aujourd'hui j'aurais pas des réprimandes là, à vous dire une chose semblable là, si j'étais encore membre du barreau. Mais personnellement, je pensais beaucoup à la victime. Parce que moi, ce qu'on m'avait dit, là, je vous parle, c'est presque à 45 ans.
Oui.
À l'époque, c'était ça qui était la en tout cas, moi, c'est ce qui m'avait marqué. C'est que de faire témoigner une victime, c'était comme lui faire revivre à nouveau.
Ce qui s'est passé.
Puis,
c'est rough.
C'est ça. Puis à l'époque... Quand tu t'es rendu, c'est parce que à l'époque, le viol avait des critères qui étaient très élevés, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait pénétration et éjaculation et faire la preuve de tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une agression sexuelle, il y a des degrés qui sont ouais. beaucoup plus bas pour justement avoir un degré de preuve qui est moindre pour en arriver à une culpabilité.
Mais c'est parce qu'il fallait quasiment que ça soit de la perfection. Tout est... Il n'y a pas de roi à l'erreur. Tout est béton.
Non, mais c'est ça,
Chris, des causes toutes béton, il n'y en a pas tant que ça.
Et puis, il n'y avait pas la trousse qui existe maintenant. Elle n'était pas aussi... Écoute, c'est loin, là. Mais tout ça pour dire que... Vous voyez mon malaise.
C'est ça qui t'a...
J'avais un certain malaise.
Puis ça aurait été récurrent, pas tout le temps, mais ça aurait fait partie de ton...
De
ton travail. Là,
oui. C'est ça. Mais j'ai quand même eu des belles expériences. J'ai croisé des gens qui avaient besoin d'aide, puis qui étaient dans le mauvais chemin, puis qu'à un moment donné, ont bifurqué. Peut-être oui, peut-être non.
Oui.
Mais j'ai quand même rencontré le personnage le plus fascinant. Le gars... D'ailleurs, c'était la seule personne qui m'avait vu au théâtre. Okay. Puis, le gars, c'était un voleur à l'étalage. Et, écoute, il m'avait dit à un moment donné, dis-moi, je peux te dire l'heure des breaks de tous les gérants du centre d'achat Intel, J'ai dit, quoi? Il dit, t'es comédien, je suis magicien. Il me disait ça souvent, t'es comédien, je suis magicien.
Mm-hmm.
Lui, il volait, ça n'avait pas de bon sens, puis il s'est fait pogner avec une niaiserie, puis bon, ouais. Qu'est-ce qui est devenu, j'en sais rien. Mais c'était une personne qui était fascinante. Parce qu'il faisait du vol à l'étalage, puis évidemment, il vendait ça, puis il faisait du recel. Là, c'est, je ne veux pas lui donner une médaille.
Non.
Mais, tu sais...
Mais c'était ça, son travail. Mais c'était son expertise. Parce que si t'arrives à me dire, bon, là, on peut aller là, parce que là, le break de choses est là, puis là, c'est le changement de chiffre, peut aller là, puis là, je peux y aller direct.
Il était d'une intelligence remarquable, le gars. Mais tu sais, je ne trouve même pas pour l'enchanter, il mange un voleur, tu sais. Mais il reste qu'il était fascinant. T'sais, il sortait dans le temps, le Pascal. Il sortait des TV.
Le Pascal.
Il sortait des TV avec un trench.
Plus dur à distribution consommateur.
Hein, oui, c'est ça. C'est le camion. Mais, ça m'a fait rencontrer des gens.
Mais ça donne un autre côté aussi d'humanité. Tu sais, là, comme tu dis, tu vas en avoir des pas bons. Mm-hmm. Puis tu auras du monde, comme tu dis, que Chris. Mauvais chemin de bad luck, ça a viré, tu sais, puis où tu vois l'autre côté, non?
Oh, absolument.
Tu sais, là, t'as comme l'autre bord de...
Mais c'est parce que c'est la misère humaine, aussi. Ouais. Il n'y a pas un voleur qui vole parce qu'il est riche. Ce sont tous des gens qui volaient parce que... Moi, il y en a un, c'était à pleurer, il s'était fait pogner parce qu'il avait volé, parce que c'était dans le temps des fêtes, puis il voulait donner des cadeaux à ses enfants. Fait que les cadeaux que les enfants ont eu, c'est que papa est en prison, tu comprends? C'est... Mais en même temps, t'es toujours bien pas pour dire pas de problème, oh, tu l'as volé mon âme, monsieur c'est Noël. Mais non. Mais tu sais, j'étais étiré là-dedans. Puis mon dernier client, ça c'est drôle. J'avais commencé parce que moi je faisais du théâtre, puis je continuais le samedi matin. Puis j'aimais ça, puis en même temps, quand tu fais du théâtre, le petit 50$ que ça me donnait le samedi matin,
oh oui, il balançait sa tête!
Il était dans
T'avais pas besoin de retourner puis demander à quelle heure que le gérant
C'est ça. Puis à un moment donné, j'avais commencé et l'ancien compte était commencé. Alors, évidemment, j'avais des apparitions, puis à un moment donné, je me disais, mon Dieu, il y en a un qui va me reconnaître à un moment donné. Puis là, j'entre dans le samedi matin, dans le box, je dis bonjour, je suis Maître Girard, dites-moi qu'est-ce que vous avez fait. Puis je savais ce qu'il avait fait, mais je vais vous poser quelques questions. Un gars me regarde, puis il bégayait. T'es pas avocat, t'es collé ça, je t'ai vu dans l'ancien compte jeudi. Fait que là, ça fait caramba, yes, we're the masqué. Fait que ça a été mon dernier client.
Ils ont-tu bien apprécié, ils ont-tu quand même compris ta démission?
Ah, mon Dieu, c'était écrit dans le ciel, là, tu sais. Puis c'est moi aussi qui leur demandais un peu de rester parce que j'aimais ça.
OK.
Tu sais, c'est un autre univers, tu sais. C'était comme un ancrage aussi, tu sais. Quand tu étudies, c'est quoi, ça prend combien d'années pour être avocat, là? C'est 20 ans, je sais pas trop, là. Monet, tu dis, Colin. Puis en même temps, soyons francs, je me lançais dans une carrière d'une insécurité sans nom. Puis je savais que j'avais quand même un plan B si jamais ça marchait pas. Mais il était loin, le plan B. Je voulais pas revenir avocat.
Non, ça, je comprends.
C'est ça.
Puis quand t'avais quel âge quand t'es sorti du conservatoire?
20.
T'étais dans vingtaine, début vingtaine, mi-vingtaine?
23, je pense. Okay. 24.
Fait que comme t'étais... Mais de manière que t'en parles, c'est que tu t'es mis à travailler tout de suite.
Comme
théâtre, tu sais, ou en tout
oui,
cas, mais
je dis,
t'es sorti de l'école, puis oui. C'était good.
Oui,
tu sais, là, t'étais.
C'est encore là, c'est Rémi Girard qui m'a engagé le premier pour jouer au théâtre.
Mais lui a fini avant toi.
Oui, Rémi a 2-3 ans.
Mais vous avez été à l'école, vous êtes croisé à l'école, ou
non,
il était juste.
Tout.
Fait qu'il faisait juste des répliques pour le plaisir.
Non, c'est parce que. Eh, mon Dieu, c'est une longue histoire.
Ben, je sais pas, tu l'as connu d'avant, d'abord.
Un petit peu avant, c'est que. T'es trop jeune, peut-être, connais ça, les perspectives jeunesse.
Non, mais OK.
Tu sais, c'est quoi?
Oui.
OK, bien, on avait des subventions, puis c'était des projets. Puis nous, on avait une troupe qui s'appelait la gang des autobus.
OK.
On jouait dans les autobus de la ville. On arrivait, puis là, tout d'un coup, on se levait, puis on se mettait à chanter, puis blablabla, puis le monde aimait ça, ou il aimait pas ça, mais peu importe. C'était du théâtre d'intervention.
OK.
Et une année, qu'est-ce qu'on est subventionnés? Fait qu'à un moment donné, on s'est dit, tabarouette, on va engager des bons acteurs. Et Rémi sortait du conservatoire, il n'y avait pas de travail, puis on lui a offert. Ça te tente-tu de travailler avec nous autres pendant l'été avec un salaire, puis etc. Puis Rémi, il dit, ben oui, yes! Fait que c'est comme ça que j'ai connu Rémi. Puis, tu sais, c'est bien sûr que Rémi, c'est tout un acteur. Hein. Fait que c'est comme ça que je l'ai connu.
Mais c'est le fun de savoir qu'il a commencé en théâtre d'intervention dans les autobus de Québec.
Oh, mon Dieu, ben non, même avant ça, il y
avant
avait...
Ça, t'es aimes pas les écouteurs, hein? T'es
non, j'ai scrap depuis tantôt. J'ai des grandes oreilles. C'est... Non, Rémi avait été dans le théâtre Parmi nous aussi.
Oui, OK.
Théâtre Parmi nous, qui est un théâtre qui existe encore. Là,
yes.
Il a été un des premiers dans le théâtre Parmi nous. C'était bon, ça, tabarouette. C'était des acteurs avec Jack Robitaille. Il y avait des maillons, comment ça s'appelle. En tout cas, ça l'a dirigé pendant des années.
Mais quand, là... Ça veut-tu dire que t'as gardé ça pour toi en esti quand t'es allé auditionner?
J'avais quoi?
T'as dû garder ça pour toi quand t'es allé auditionner pour rentrer au conservatoire, si t'étais déjà en droit puis t'étais en train de...
Non, parce que...
Ou t'as juste fait « je vais pareil ». Fait que même ton père le savait.
Non,
c'est ça.
Non, il savait pas. Mais mes proches le savaient, la gang qui faisait du théâtre puis tout. C'est ça. Puis, je veux dire...
C'est toi qui... T'es-tu fait... pas poussé à y aller, mais eux autres, tes amis t'encourageaient-tu à y aller?
Ben,
ou c'était comme un...
Je pense que c'est Rémi, un moment donné, qui m'a dit, veux-tu faire du théâtre sérieusement? Puis, tu sais, quand tu te fais dire ça par ce gars-là, parce que, tu sais, on a beau dire, là, Rémi, il a l'âge qu'il a, puis bon, toute la carrière qu'il a. Mais même à l'époque, Rémi était une personne qui avait une crédibilité énorme, okay. Là, même à 25 ans, là, tu sais, il avait fait son conservatoire en 2 ans, au lieu de le faire en 3 ans, parce qu'il avait sauté des années, ce qui s'était jamais vu, lui, puis Normand Chouinard. Okay. Alors, tu sais, c'était quand même pas rien. Puis quand un gars comme ça te dit, tu devrais aller au conservatoire, tu fais, oh boy, tu sais, c'est...
Fait que ça t'a comme...
Ah, ben oui, c'est bien sûr.
C'est un autre petit...
Ah ben oui.
Tu tapes ses fesses, que t'as comme
oui.
fait... Ah, OK.
Oui, il fait partie de ceux à qui je dois beaucoup, là, c'est sûr.
Non, non, mais juste des fois, de tu fais... C'est le petit coup de vent dans la voile que...
Ah oui.
Tu sais, bah, c'est le fun, mais ah oui. Il y a quelqu'un qui fait... Il y a peut-être plus que tu penses dans cette...
Oui, c'est ça.
Dans cette année-là.
Parce qu'en même temps, tu sais, tu dis à quelqu'un, hey, ça me tente de faire mes auditions, puis il fait... Ah ouais, ouais. OK. Ouais. Canadien, tu gagnais, hein, tu es là, tu es aussi. Ouais. Tandis que quand la personne que tu crédibilises ou pour qui tu as beaucoup d'admiration te dit que tu devrais le faire, ben let's go. Puis, moi, je pensais pas faire la carrière que je fais là. Tu sais, moi, je pensais essayer, puis avoir du fun, parce que c'est ça que j'ai connu, moi, en faisant du théâtre à l'université. Tu sais, j'ai connu du monde, mais fait des amis, des parties, puis faire des spectacles, puis tu sais... Et tu n'as fait du théâtre, tu sais, quand tu arrives et tu fais rire 500 personnes, sacre mouille, c'est tough d'à côté ça, là.
Je pense que c'est pas accotable.
Non, ça s'accote pas.
Je vais être bien honnête avec toi, non. Je pense que faire rire du monde live...
c'est pas possible.
Il y a rien... C'est le plus beau high, je pense, que comme moi j'ai vécu, en tout cas.
Oui.
Fait plein de belles affaires, là.
Oui.
Mais... Chris, que tu veux juste y regoûter.
Tu punches, puis là, tu te dis, ça, c'est rien, Chris, dans 3 minutes, ouais, il y en a un autre qui s'en vient.
le mur de son qui revient te frapper,
c'est ça,
là.
C'est ça.
Toi, puis, tu lances juste un petit pouf, puis c'est...
ça. Puis là, tu fais la vague, ça va jusqu'en arrière, elle redescend un petit peu, et là, t'as refait. Ça, il ne faut jamais que tu refesses dans la vague.
Non, mais tu la prends une fois.
Oui. Parce que tout le monde... C'est qu'il a dit. Non, tabarnak. Demain, il ne ferait pas ça, Simon. Mais puis en plus, c'est dur d'apprendre ça. C'est dur d'apprendre ça à des élèves ou des choses comme ça, parce que c'est de l'instinct. Tu sais, en tout cas, mais...
Non, t'as raison.
Ah non, mais c'était un beau high. Oh oui, j'ai aimé ça au bout.
Mais t'as-tu aimé l'école en tant que telle là-bas?
Non. C'est parce que ça n'a pas bien été.
Non?
Non, parce que en fin de deuxième année, il y avait eu comme une espèce de rébellion avec un professeur. Puis, moi et ma grand-gueule, je m'étais mis le nez dans le trafic, puis mettons que j'ai payé pour. Puis, mais en même temps... J'ai eu une excellente formation. T'sais, j'étais dans la classe de Denis Bernard, puis de Marie-Ginette Guay, puis de Michel Nadeau, qui sont des acteurs et actrices extraordinaires. On a eu des bons professeurs, tout ça. Si j'ai pas été mis dehors parce que je manquais de talent, c'est parce que j'avais une petite grand gueule. Puis aujourd'hui, je pense que j'aurais pas joué. Non.
Mais ça aurait peut-être pas changé. Tu peux pas. T'as fait ce que t'as fait.
Non, oui, je sais.
C'est ça que t'as fait. Puis tu fais garder.
Mais c'est-tu quoi?
C'est ça. C'est
parce que j'ai été étiqueté et renvoyé du conservatoire. Alors, c'est comme un joueur de hockey qui n'a pas été repêché.
OK.
Mais vous montrer, moi, Chris, que j'ai du talent. Puis ça a été mon quest pendant.
Un bout de temps?
Plusieurs années.
Ouais.
Plusieurs années. Oui. J'ai trouvé ça trop.
Quand tu t'es mis beaucoup de pression. Mais je comprends. Je te comprends.
Puis ça fait en même temps que. Des fois, mettons, je mettais peut-être un petit peu trop, un petit peu plus que le client demandait parce que je voulais
trop. Prouvé que
c'est ça, puis...
T'avais ta place, là.
Exact. Puis aujourd'hui, je joue plus de même pantoute, parce que... Oh, bon,
mais c'est bon, parce que toi, c'est des étiquettes, des fois, qu'on se colle, puis... Puis après, mais en même temps aussi, c'était des fois... à tort ou à raison, là, quand il y a des... Il y a tellement de bonnes affaires dans des institutions, puis il y a d'autres côtés d'une institution que ça n'était une que j'aimais pas, parce qu'à un moment donné, tu te rends compte, parce que moi, quand j'étais à mon école, moi, j'étais à Sainte-Thérèse, puis je suis allé là, auditionner là, parce que c'était la seule place que c'était encore ouvert.
Okay.
Les auditions étaient encore, tu sais, comme, toutes les places, c'est à l'année prochaine, je dis, je vais aller là, puis je vais voir c'est quoi, tu sais. Puis je suis allé, j'étais pas préparé, puis ils m'ont pris. Fait que dans ma tête, je me dis, c'est une école de marde.
Ah, parce qu'ils t'ont pris.
Ils y m'ont pris, moi, je suis arrivé là, pas prêt. J'ai improvisé, j'avais une mini-scène, puis je suis là, mais j'étais à l'aise sur scène. Puis, tu comprends? Après, j'ai compris pourquoi ils ont fait, non, c'est là, là, il va venir apprendre, puis c'est correct. Mais dans ma tête,
oui.
je fais... Ils sont pas professionnels. Ah oui. C'est pas des bons, là.
C'est sûrement pas une mauvaise école.
C'est une très bonne école. Ah oui, j'ai tout fait là après. Ah puis oui. C'est après que je me suis rendu compte la crème, elle va monter. Que ce soit là que t'as commencé ah pas oui. rien. T'étais un humoriste. Tu sais, là. Ah bon, oui. Il n'y okay, avait pas d'école dans le temps. Pourtant, il y a eu du musical, il y a eu ça. Il y a eu du Christ de bon monde.
Une école donne pas de talent.
Ça va donner une structure de travail que tu peux faire. OK, ouais. si ça.
Ben, des occasions de le découvrir.
Oui,
de...
comment moi, je fonctionne.
C'est ça.
Tu sais, là, puis que c'est comment moi, je suis capable de faire mon chemin.
Ce que je trouve dur des écoles, c'est que si on avait...
Fais juste le... Non, mais gars,
okay,
fais juste le rapprocher. Oui.
Parce que je ne sais pas comment ça marche.
T'as peur?
Un, deux.
Allô?
Allô? C'est parce que là, je l'ai perdu. C'est pas grave.
Alors... On parlait d'école, là, tu sais, oui, mais...
Mais c'est le... Ben, c'est le... C'est de susciter le goût. Puis, ce que je trouvais difficile, puis de toute façon, toutes les écoles, c'est pareil, alors c'est pas moi qui vais changer ça, mais c'est beaucoup, ils te disent ce que tu fais pas bien.
Ouais.
C'est très, très rare qu'ils disent « Hey, wow, c'est bon, t'es pas de sentir bon, pas en tout. C'est « Hey, ça, c'est pas bon. Hey, telle affaire, c'est mauvais. Ta-ta-ta-ta-ta. » Hey, j'ai un professeur qui m'avait dit « Tu joues comme un gars qui a jamais fait l'amour. » Chris, quand j'ai dit ça à ma blonde, elle a dit ah, tu sais, c'est vrai. Non, non.
Ouais, c'est ça, je pensais qu'elle avait ça.
Bon, enfin, quelqu'un te l'a dit. Non, mais tu fais ouais. « Chris, je viens-tu de me faire dire ça? » Puis tu sais, souvent, t'as des gens qui se faisaient des... Puis tu sais, t'en voyais des fois qui se faisaient débattir, tu sais, puis... Il y en a une dans ma classe, ils l'ont pris, elle avait 17 ans, je pense, ou 18 ans, puis ils l'ont mis dehors parce qu'elle trouvait trop jeune. Mais, là, mais Chris, ouais, vous l'aviez, son âge, quand elle est arrivée, tu sais. Mais en même temps, peut-être qu'elle n'avait pas la maturité aussi. Tu sais, c'est jamais à trancher au couteau non. comme ça, là, tu sais. Mais moi, c'est ce que j'ai trouvé dur des écoles, c'est de l'école, je veux dire, c'est que c'était toujours, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon.
T'avais-tu ça différemment quand t'étais en droit?
Ah ben,
t'avais-tu plus les deux ou c'était tellement empirique que ça,
ben on s'en calisse? Non, en droit, je veux dire...
Non, mais je sais pas.
Non, mais en droit, il y a personne qui te dit c'est bon, c'est pas bon.
Okay.
Tu fais des examens, puis c'est un chiffre. Okay.
Ben, c'est ça, quand je dis que c'était comme empirique, c'est comme... La réponse, c'est ça ou c'est ça? Il y a pas de...
Parce
que quand on s'entend, comme le théâtre, ça, c'est subjectif aussi.
Oui, oui.
Tu sais, tu vas des travailler fois... avec quelqu'un aussi que tu fais que je le catch pas, là. Ben, il y a une base, là, d'être pas bon, ou de... Écoute, tu l'as pas...
C'est l'article 1053, tu sais. Dans le temps, c'était celui-là, la responsabilité, là, mais c'est plus ça maintenant que le nouveau code. Mais des fois, il y avait de l'interprétation, puis on pouvait... Il pouvait y avoir un petit jeu, mais en général, du droit, c'est très, très cartésien, là, tu sais. Par contre... Il y a, ce qu'on appelle de la jurisprudence qui est contradictoire. Tu sais, à un moment donné, si tu prends une cause qui est allée à la cour d'appel, tu peux avoir trois juges qui sont en faveur puis deux juges qui ne sont pas en faveur. Alors, les deux juges qui sont dissidents peuvent quand même donner des notions de droit sur la cause qui, même si elle a été perdue à 3-2, dont tu peux te servir. Okay. Parce que c'est un gars qui est ou une femme qui est à la Cour suprême, là, on s'entend là, que quand ils disent que telle affaire, ben, t'sais, c'est des gens qui ont pensé. T'sais. Le droit, c'est pas seulement là, vrai, faux. Là, t'sais, il y a plein d'interprétations. Moi, les chartes, ça, j'avoue que je suis arrivé un peu avant ça, mais les chartes ont changé énormément de choses. Les droits et libertés, il y a plein d'affaires à un moment donné qui sont en fonction de l'égalité homme-femme. Je dis pas que c'était pas légiféré à l'époque, mais c'était pas aussi bien structuré qu'aujourd'hui. Puis encore là, il y a encore beaucoup d'interprétations.
Oui, mais au moins, c'était... Oui, mais c'était pas dans la bonne direction.
Là, ah, ouais, là, c'est ça.
Là. Mais toi, as-tu déjà joué ou t'aurais-tu aimé ça, jouer dans Justice pour tous?
J'en ai fait dans...
T'en as-tu fait pour vrai?
J'en ai fait deux... deux
pour ceux qui savent pas c'est quoi Justice pour tous, c'est
vraiment... Mais pas celle-là.
Non, avec la voix...
C'était pas celle-là,
tu sais, là, comme un couple ou quelque chose, je sais pas, puis vous savez, vous pouvez faire...
Non, j'ai pas fait ça. C'était à TVA, là, Denis Bouchard jouait là-dedans, c'était bien bon, là, puis il y avait souvent un procès en cours de route.
Pas les grands procès, toujours?
Ça, j'en ai fait un aussi, où je suis dans l'affaire Coffin.
Oh, Wilbert Coffin! The Defense Rests!
The Defense Rests! Hey,
ça, là, je vais me souvenir de ça toute ma vie, parce que j'ai fait un cours de... C'était un faux cours de droit.
OK.
On était... Parce que moi, j'étudiais en Ontario, fait qu'on était en 13e année. Mm-hmm. Fait que comme tout le monde s'en allait à l'université, parce que le reste du Canada, tu passes du secondaire à l'université, il n'y a pas de... Mm-hmm. Puis, on avait un cours de semi-droit pendant un an, fait qu'on touchait juste pour... Puis, à un moment donné,
Est arrivé à la fin
de Chris, oui. Puis il nous avait montré, je pense, qu'on avait écouté juste ça parce qu'il disait
okay.
Il amène des bons éléments, puis après ça, on pouvait étudier le cas, puis tout le monde, tu sais, là. Mais je me souviens de ça, de tu étudies, puis là, t'as les causes, puis là, on lit, Chris.
François,
t'as des notes, tu sais, puis ça, puis le, ouais. le vrai procès, puis les vrais écrits, puis les vraies affaires. Mais on se souvient, moi, je me souviens juste de votre note de Defense Rest, on était dans la classe. Non!
Mais non, c'était une erreur majeure.
Non,
c'était une erreur majeure. Parce que, en disant The Defense Rest, c'est-à-dire que quand on dit The Defense Rest, on dit en français, là, mais je ne sais pas c'est quoi, ce serait non-lieu, je pense.
La défense s'endort.
S'endort. Non, je pense que c'est un non-lieu. C'est que l'avocat de la défense dit au juge, le procureur de la couronne n'a pas fait la preuve, alors acquittez mon client.
Il n'y a aucun doute raisonnable, il n'y a rien.
Il se passe rien. Dans le cas de Wilbur Coffin, je connais quelqu'un, un avocat qui m'avait dit, on pourrait le déterrer puis le rependre à nouveau tellement la preuve était claire. C'est parce que c'était une preuve circonstancielle. Okay? Une preuve circonstancielle, c'est que personne ne l'a vu. Mais c'est comme une espèce de petites pierres, comment ça s'appelle,
les morceaux de pain.
Les morceaux de pain qui fait qu'à un moment donné, tu as un puzzle, puis le puzzle, c'est le rocher percé. C'est d'ailleurs l'image que le juge avait donnée. C'est le rocher percé, puis il manque seulement deux, trois affaires qui sont des nuages, on s'en sac, c'est le rocher percé. C'est ça une preuve circonstancielle, mettons pas ça. Et l'affaire de Wilbur Coffin, qui est différente d'aujourd'hui, c'est qu'on l'avait arrêté avec des biens de la personne assassinée
en sa possession.
Je pense que c'était le fusil, de l'argent et des choses, peu importe, ça peut être une tasse, peu importe. Mais ça, la loi de la preuve en Canada, à cette époque-là, renversait le fardeau de la preuve. C'était à la défense de démontrer qu'il n'avait pas eu ces biens-là en commettant le meurtre. Autrement dit, si j'avais défendu Coffin, je ne sais pas, je vais
peut-être faire... Non, c'est bon.
J'aurais trouvé une façon de dire que M. Coffin avait trouvé ça dans le bois. Mais non! Il a dit de Defense Rest. Mais non, c'était à toi à prouver que les biens, tu les avais dans tes mains. Mmh. Et en plus, il y avait une autre affaire qui était bien spéciale. C'est que Coffin était... comment ça s'appelle? Common law husband. En français, comment on dit ça? Des conjoints?
Un conjoint de fait.
Bon, de
c'est
fait.
Ça, un c'est conjoint
ça.
De fait.
La dame, ça s'appelait Pitre, et c'était sa conjointe de fait. La loi de la preuve en Canada, lorsque deux personnes étaient mariées, on ne pouvait pas contraindre l'épouse de témoigner contre son mari.
Okay.
Mais comme là, c'est une conjointe de fait, on l'avait contrainte. Et là, évidemment, tout le monde qui monte aux barricades en disant « c'est épouvantable, naninana, mais c'est la loi! » Le juge, s'il avait accepté s'accepter ça, ça allait en appel puis ça cassait de suite. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné est arrivé le livre qui sont les assassins de Coffin, puis tatata, qui est fait que... Mais, il y a quand même eu une bonne chose. C'est-à-dire qu'avec tout ce que ça a provoqué, l'affaire Coffin, ça a été la dernière exécution d'une personne au Canada. Parce que, à un moment donné, ça a fait... Il y a un doute, là. Parce que même si... Les avocats, moi, je l'ai lu, le verbatim de tout le procès.
Okay.
Puis, écoute, en tout cas, c'est mon avis.
Oui, oui.
Mais dans la population, beaucoup de gens ont dit on a pendu un innocent. Alors, ça aura été la bonne chose de l'affaire Coffin. Il n'y a plus d'exécution. Alors, c'est ça. Ça a été la dernière personne exécutée en 1959, 8, 7. Je ne suis pas bon en chronologie. Non. Mais c'est quand même une cause qui m'a vraiment... beaucoup intéressé. Parce qu'il y avait beaucoup d'éléments dans ça. Aujourd'hui, la loi de la preuve n'est plus la même. Puis, comme je te dis, la femme n'était pas... était contraignable.
Contraignable à lui témoigner.
C'est ça.
Ah, c'est donc bien nice, ça. Puis tu vois, ça m'est revenu tout de suite. C'est fou, hein?
Ouais.
Petit cours de même, mais je me souviens juste de The Defense Rests.
Puis après ça, ils sont allés en appel.
Ouais.
Et à la Cour suprême.
Ouais.
Puis, moi, je pense qu'à quelque part, je sais pas si aujourd'hui, là, je suis mêlé, ça fait 45 ans, là, mais je pense qu'il y aurait eu un nouveau procès à un moment donné, parce qu'il y a eu un doute assez sévère que je pense qu'à la cour d'appel, ça aurait fait, j'en sais trop rien, là, mais tu sais, avec les chartes.
Mais il y aurait eu matière à réouvrir.
Ben, moi, je pense qu'il y aurait eu matière à réouvrir le procès parce que il était mal défendu. Ben non, mais calvaire aussi, c'est le gars, c'est le goaler qui dit à quoi? Il shoot dans le net!
Ouais.
Hey, il n'est pas bon, le but! Ben oui, innocent, il fallait que tu goales, tu sais. Mais il n'a pas gaulé. Mais là, j'ai fait, peut-être que les descendants de cet avocat-là doivent maillir pour me tuer, parce que bon. Mais puis il y a eu d'autres affaires aussi, de la preuve égarée. Puis j'ai rencontré un policier qui était en Gaspésie.
Ouais.
Qui était dans la cause et qui était avec Coffin. Hein? Il cherchait. Parce qu'il cherchait les trois Américains. Ouais. Il les cherchait. Puis il disait que quand on arrivait dans le coin où il était, il nous amenait ailleurs tout de suite. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, je sais pas.
Mais t'sais, comment t'as rencontré ce monsieur-là?
Il était un policier vers la fin de sa carrière, quand moi, je commençais la mienne. Alors, il était peut-être jeune quand il était...
Oui,
j'en ai croisé des gens...
c'est quelque chose, là.
Miquelon, qui était le personnage que je faisais,
ouais.
C'était l'assistant du procureur de la Couronne, qui était Noël Dorion.
Okay.
Et Paul Miquelon était son associé. Son co-procureur, parce que c'était une grosse cause.
Ouais.
Puis évidemment, tout le monde disait, « Ah, Duplessis veut un coupable, puis Duplessis, parce que c'était des Américains, etc., etc. Ouais. » Mais qu'est-ce que tu veux? Ces gens-là ont été traumatisés, hein? Monsieur Miquelon, là, je l'ai rencontré une fois ou deux, et il parlait de l'affaire Coffin.
Ah oui?
Oui, ça l'avait traumatisé. Celle-là. Bien, écoute, la population disait que on avait assassiné Coffin, puis... Noël Dorion, puis lui, c'était les deux meilleurs procureurs de la Couronne. Fait, qu'est-ce que tu veux?
Les autres ont fait leur travail.
Bien, ils ont choisi eux autres, tu sais, bien. Puis, voyons, j'essaie de me souvenir du nom du juge que j'avais rencontré au funéraire parce qu'il connaissait mon beau-père. Puis, à un moment donné, il m'avait demandé « Qui êtes-vous par rapport à ma femme? » Puis là, j'avais dit, bien, on n'était pas mariés. Bien, j'ai dit, c'est ma « common law wife », tu sais. Comme on dit en anglais.
Ouais.
Oh, ça me rappelle l'affaire Coffin. J'ai fait...
Sans savoir que toi, t'étais un fan de...
Non, sans savoir. Puis, je connaissais son neveu à ce juge-là.
Okay.
Et j'avais dit à un moment donné, j'ai dit, tabarnak, ton nom qui dégaine-tu vite de même sur l'affaire Coffin? Il dit, tu as parlé combien de temps? J'ai dit, 12 secondes. Ah, c'est un temps, c'est dans le standard. ces gens-là ont été comme traumatisés. J'avais vu le M. Miquelon... À un moment donné, dans une rencontre qui n'avait rien à voir. Puis il s'est levé et il dit, mon nom est Paul Miquelon, j'ai été procureur dans l'affaire Coffin. Voyons, Christ, personne ne parle de ça. Mais imaginez le traumatisme de gens qui ont eu l'opprobre de se faire dire qu'ils avaient assassiné une personne innocente. Puis, tu sais, l'affaire Coffin, ça restera toujours un grand mystère pour bien des gens, tu sais. Mais... Je défie n'importe qui de lire la...
Ben, tu m'as déjà élucidé sur un paquet... Tu sais, déjà ça, ta compréhension de l'affaire, fait comme... Ah, non, oui, mais ne serait-ce que...
Pas moi qui avait...
Ben non, je sais.
C'est pas moi qui étais juge.
C'est pas grave, tu sais, là.
Là, je cherche le nom du juge qui était là, mais... Puis après ça, il y a eu toutes sortes de théories. Puis à un moment donné, ils ont dit, on a trouvé la Jeep, tu sais, puis ça concordait pas au niveau chronologique. Tu sais, beaucoup de gens ont essayé de trouver une façon de dire que c'était une grande, grande injustice. Moi, je pense que la grande injustice, elle est sociale, c'est de tuer quelqu'un. Tu sais, ça n'a pas de bon sens, la peine de mort, tu sais. Mais, tu sais... Aujourd'hui, probablement que ça aurait été commué. On dit ça, commué, la sentence en prison à vie.
Oui, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. T'as-tu. Je sais pas comment tu peux faire ça, mais t'essayais-tu de te tenir au courant un petit peu de ce qui se passait, même quand t'es parti? Au niveau juridique ou des.
Je suis resté membre du barreau.
Oui,
OK. Je suis resté membre du barreau pendant. Blablabla, jusqu'à temps que je déménage à Montréal.
OK.
Parce que je trouvais ça. Bien, je me disais, c'est bol, ça a été tellement tough à avoir. Puis en même temps, tu sais, j'avais les lettres au bout de mon nom, là, DSC, LB, je pense, dans le fond de main. Puis je me disais, si jamais ma carrière tombe à plat ou que je me fais couper une jambe, je pourrais toujours bien trouver un job d'avocat, tu sais. Puis à un moment donné, c'est bien niaiseux, ma fille a eu un grave accident d'auto. Et Sainte-Justine, écoute, Sainte-Justine... ils ont sauvé la vie de ma fille, puis tatata. Puis à un moment donné, j'ai reçu en même temps une demande de don à Sainte-Justine, puis ma cotisation au barreau. Puis là, j'ai dit, de la merde, hostie. J'ai pris le montant de la cotisation au barreau, puis je l'ai envoyé à Sainte-Justine. Puis c'est comme ça que ça a arrêté. Parce qu'en même temps, ça faisait c'est assez, là. Tu sais, ma carrière allait bien, puis tout ce que ça me donnait d'être avocat, c'est que la nuit, mon fax partait, parce qu'à l'époque, on c'était des fax, puis les avocats, ils recevaient ça la nuit, mais c'était dans les bureaux. Moi, c'était écrit, c'était dans le bureau à côté de la chambre à coucher, fait qu'à tous les crises d'heure dans la nuit, « Oh, tabarnak! » Tu sais, j'aurais pu déménager une fax, on s'entend. Mais, peu importe, tu sais, il y avait tout ça qui entrait en ligne de compte, puis beaucoup plus tard, est arrivé, ça c'était drôle, il est arrivé une... il y avait une place qui se libérait au conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Ouais. Et il désirait avoir quelqu'un du milieu culturel. Bon, c'est, j'avais eu cette information-là par l'Union, puis tata, tata. Puis à un moment donné, quelqu'un me dit, veux-tu appliquer pour ça? Fait que j'ai dit, ben oui. Mais en remplissant mon affaire, je disais, hey boy, ça serait peut-être le fun de rajouter que j'étais avocat, mais je ne l'étais plus. Fait que là, j'appelle au barreau, tu sais. Puis là, j'explique, tu sais, écoutez, c'est parce que j'aimerais ça savoir de quelle façon je pourrais réintégrer le barreau. Fait que là, la madame, elle me dit, avez-vous posé un acte juridique dernièrement? J'ai dit, le dernier remonte à 15 ans. Elle dit, oh! Alors, à ce moment-là, il faudrait peut-être que vous rencontriez un comité pour évaluer vos connaissances juridiques. Et ça pourrait prendre une heure ou deux là, pour qu'on vous pose des questions. J'ai dit, ouf! Je vais vous dire, moi, en droit criminel, peut-être, là, mais c'est rien que ça. Elle dit, ben, à ce moment-là, je pense qu'il faudrait que vous refassiez le barreau. T'sais. Ça, c'est 6 mois, tu sais, étudier comme un chien. Fait que là, je dis, madame, ce téléphone se terminera dans les 6 prochaines secondes. Écoute bien, j'avais perdu 15 livres, hostie. J'allais pas recommencer ça, hostie, bol. Fait que c'est là que ça s'est tout arrêté. Okay. Mais j'avoue que à l'époque, c'était plutôt, maintenant, c'était 1500$ par année, mais maintenant, je pense que... Puis j'avais pas besoin de payer d'assurance.
Okay.
Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher que ça de rester membre. Puis à un moment donné, c'est bien beau, là.
Ben, mais tu t'en servais pas, là. Tu sais, c'est pas...
Pas en tout. Tu sais... C'est juste que ça paraissait bien, c'est vrai, tu sais.
Ben non, c'est clair que ça paraissait bien. Bien.
Mais tu sais, je regarde pas, mais... Puis en même temps, je te dirais que...
Mais tout est encore là.
Ben oui, c'est, on appelle
ça... Je comprends, tu dis, OK, c'est un peu poussiéreux, OK, parfait, sur peut-être la minutie.
Ouais.
Mais depuis tantôt, t'es comme, attends, c'était l'affaire, puis c'est comme t'es allé rechercher un tiroir, puis t'es attends, les papiers sont encore là.
Ben, c'est ça, les 3 ans qu'on passe à l'université, c'est qu'on nous apprend l'esprit juridique. C'est-à-dire que... Tu connais pas la loi en particulier, mais quand j'écoute, même si je connais pas la loi américaine, je les écoute, là, qui parlent des procédures, des suivis, des ça, puis à quelque part, je suis un petit peu le fil.
Okay.
Parce que on a l'esprit juridique.
Okay.
Puis c'est drôle parce que il y avait une question qui était posée aux gens, parce que des fois, c'était contingenté, puis des fois, il y a des gens qui passaient une espèce de petit pré-examen pour savoir s'ils allaient être acceptés. Puis il y avait une des questions qui était la suivante, c'était... Vous avez eu un contrat avec la mafia pour tuer quelqu'un. Et on vous a promis 15 000 $ Et la personne ne vous paye pas. Qu'est-ce que vous faites? Puis il y en a qui répondaient, je poursuis à la Cour supérieure parce que c'est en haut de 10 000. Tu comprends? Mais c'est parce que tu peux pas... Tu peux pas négocier quelque chose d'illégal, tu comprends? Non. Mais c'est parce que c'est ça l'esprit juridique, c'est que la personne aurait fait, ben, je ça marche pas, là. puis par les enfants, c'est moi qui...
C'est ça.
Puis en plus, par les enfants...
J'accepte cette sodomie et la prochaine fois...
mais tu comprends? Mais c'est ça. Des fois, je suis dans le champ gauche. Je peux me tromper. À un moment donné, j'avais... Écoute, c'est gênant, là, mais moi, je pensais qu'à un moment donné, quand tu étais conjoint de fait pendant un certain temps, les mêmes choses s'appliquaient...
Comme si t'étais marié.
Comme si t'étais marié, parce qu'il y a quelque part dans les faits. Mais non, c'est une exception au Québec qu'on a, puis c'est pas des blagues, c'est le procès...
C'est juste au Québec,
hein? Le procès de Lola contre je sais pas qui, là, que j'ai fait. Oh, Seigneur Dieu! T'sais? Mais j'aime ça. Je m'intéresse à plein d'affaires parce que ça me rappelle...
Mais c'est une affaire qu'on a en commun aussi de... On est curieux sur un paquet d'affaires, tu sais? Mm. Puis il y a plein d'affaires qui vont nous intéresser, puis c'est comme, j'en sais un petit peu plus, puis d'aimer au moins comprendre. Ça se passe un peu... OK, après ça, je suis pas obligé d'aller plonger encore plus loin, mais au moins, OK, c'est à peu près de même, ça se passe, OK, c'est bon, ça. Puis quand t'es devenu... Parce que c'est ça l'affaire, que t'as fait tellement d'affaires. Quand t'es devenu animateur...
Ouais.
Parce que t'as animé quand même un show.
5 ans.
Puis c'est un show qui était hebdomadaire.
Quotidien.
C'était quotidien.
Tous les matins. 5 ans. On a fait presque 900.
Tu sais, là, les mousquetaires. Fait que là, tu... Comment te... Mais comment c'est arrivé, puis comment t'as comme... T'as réussi à...
un coup de chance du tabarouette. C'est-à-dire que Radio-Canada, il a fait deux... Selon je me souviens, deux pilotes. Et d'un pilote, on avait choisi Chantal, et d'un autre pilote, on avait choisi Gaston.
Okay.
Et à un moment donné, il manquait une troisième personne, et quelqu'un a demandé à Gaston, « Connais-tu quelqu'un qui n'est pas pire en improvisation, puis qui s'intéresse à la politique, puis qui a un peu d'humour? » Puis Gaston dit, « Ben, demande-le au Georges. » Mais depuis ce temps-là, j'avais dit à Gaston, « Gaston, il y a une statue en arrière de chez nous, puis tous les soirs, je vais te dire merci, puis je prie, puis je prie que tu ailles au ciel quand tu vas mourir. Écoute, tu parles d'une chance du tabarouette. » Puis là, on se connaissait par la LNI, mais sans plus. Puis ça a connecté.
Mais c'était ça le lien, vous autres, quand
même. Oui, c'était
le lien LNI.
Ben, c'est sûr, parce que...
Parce que ça, c'est une affaire qu'on n'a pas parlé.
Non.
Tu sais, là, je veux dire, qui est important, parce que c'est ça aussi qui fait... Parce que la LNI, c'est un petit peu aussi comme... C'est comme encore, je trouve, un secret bien gardé. Si tu y vas, puis t'assistes, OK, t'es au courant, ah, Louis Georges est là, en plan de c'est Chantal, puis Gaston. Ouais. Mais sinon, tu sais que ça existe, mais je pense que tu sais pas le degré de d'excellence ou de...
De stress que ça te provient. Est-ce
bon. Oh, t'es dessus!
Écoute, t'sais... Écoute...
Ponton, était encore l'arbitre quand t'étais là?
Chris, oui, écoute, il me crissait dehors une game sur deux, aussi. Écoute, j'ai eu le record pendant un certain temps. Ça a l'air que ça a été battu dernièrement, là.
OK.
Mais, c'est parce qu'il joue tellement de games. Mais, mais on en jouait 6 ou 8 games par année. Okay. Mais c'est parce que c'était à Radio-Québec qui s'appelait comme ça. Il y avait 1 million de personnes qui écoutaient ça.
Vous autres, dans le temps,
oui. Ben oui. Puis, quand tu pognais une étoile, ou quand tu jouais une bonne game... Téléphone sonnait le lendemain.
T'es-tu sérieux?
Ah, c'est bad comme moi, là.
Non, non, oui.
Qu'est-ce que tu veux? C'était tellement vendeur. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, quand tu faisais une bonne impro, c'est ah, qu'est-ce qui est bon? Ben, puis là, ben, tu pognais une bebelle. Je te dis pas que tu pognais
une. Non, non, mais il y avait bon. Comme.
Puis ensuite, c'était comme un exercice hallucinant, là. Écoute, faire une improvisation avec Patrice Lécuyer, puis Robert Gravel, puis Claude Laroche en même temps, là, m'a dit.
Mais toi, t'étais-tu là du début? Dans lesquelles années t'étais là?
Non, je suis allé. Moi, je suis arrivé à l'époque de Michel Rivard, à peu près, un petit peu avant, après. Okay. Puis j'ai toffé ça 12 ans, à peu près.
Mais c'était quoi, des années 80?
À peu près, oui. 80... Ma fille venait de naître, fait que ça fait 38 ans.
OK. Ouais.
Okay, okay. Parce que le coach, il me dit ça. Il dit, « T'as-tu d'être dans Eleni, Yves Simoneau? » Puis je l'aimais, Yves. Fait que là, j'ai dit, « Écoute, Yves, je viens de tourner dans un film qui s'appelait Hold Up avec Belmondo. » Puis j'étais à Montréal. Et j'étais là 12 jours de façon différente. Mais ma fille venait de naître. Puis ma blonde, elle disait, « Calvaz, aide-moi, là, tu sais. » Puis là, j'avais dit, « OK, je finis le film. Puis après ça, on prend un break, puis je vais être là, tu sais. » Mais là, Yves Simoneau me dit ça, tu sais. Mais je dis, Yves, je suis obligé de te dire non. Parce que faut que je reste pour ma blonde, ça. Puis il me dit, est-ce que tu sais que ça donne 1 800 $ par soir? Mais non! Je dis, écoute, je te rappelle, puis là, on en a parlé. Puis, écoute, c'est une fortune. Oui. C'est parce que Robert et Yvon, qui étaient les fondateurs de ça, disaient que c'est une émission qui marche et on l'écrit à mesure, puis ça prend des... En tout cas, peu importe, il avait négocié quelque chose d'extraordinaire.
Ouais.
Puis qu'est-ce que tu veux? Et là, je te dis le montant. Peut-être 100 $ de plus, 100 $ de moins, là, je m'en fous.
Mais je suis content que tu aies dit le montant, parce que c'est une affaire souvent que je me rends compte, les acteurs ou le monde entier, ils n'aiment pas trop parler de ça.
Oui, le public, j'aime pas ça, oui.
Non, pas le public.
Non, mais quand je dis ça publiquement, je ne suis pas sûr.
Ah, ben moi, je trouve ça correct, parce que des fois, je fais... J'aime mon métier, mais si on me payait pas, on allait faire d'autres choses.
Ah oui, c'est bien sûr. C'est bien sûr.
Je trouve ça agréable de faire des
parce
sous.
Parce que moi, je restais à Québec, là. Là. C'est sûr, mais moi, je restais à Québec à ce moment-là. Tu
mais ça, ça te permettait peut-être de ne pas être assis dans l'autobus trop proche de la toilette. Tu pouvais avoir comme un...
Prendre mon
meilleur.
Non, pas vraiment. Mais,
ah, mais c'est bon.
Mais encore là, c'est le plaisir que j'ai eu, là, les gens que j'ai rencontrés, c'est là que j'ai connu Patrice Lécuyer, Sylvie Legault, Sylvie Potvin, Marie Michaud, Patrice, mon Dieu, Michel Rivard, écoute, ça a été une période de 2-3 ans où est-ce qu'on improvisait souvent ensemble, c'était un bonheur. Puis tu sais, croiser Robert Gravel, rien que ça valait la peine, tu sais, puis Denis Bouchard, puis Guylaine Tremblay, puis tu sais, beaucoup de monde sont passés par la LNI, là. Puis en même temps, on allait souper ensemble avant, puis après ça, on allait prendre une bière après, puis tu sais, on se lâchait lousse en crime. Puis Aujourd'hui, je te dirais, c'est sûr que non. On était avec ce qu'on avait, parce que tout ça, mais j'ai vu des games d'impro, là, les 4-5 dernières années, j'essaie d'y aller une fois par année.
OK.
Qui sont bons. Il n'y a pas une seconde de lousse. Ils sont bien coachés. Quand ils arrivent, ils ont quelque chose à amener. Et ils sont généreux les uns envers les autres. Et ils sont d'un talent rare. Ah, moi, c'est quoi? Aller voir une game d'impro dans l'année, là, c'est quasiment... une obligation. Moi, je suis chanceux. Des fois, je me fais inviter pour la finale, des choses comme ça. Puis des fois, ça fait des matchs hallucinants. Mais je les trouve tellement merveilleux. Ah non, c'est extraordinaire. Puis à la différence de nous autres, tu sais, moi, j'ai été au temple de la renommée de la LNI après une carrière fulgurante de 91 games, tu sais. Eux autres, ils arrivent, Chris, ils en ont déjà 600 dans le péteux, tu sais. Ils ont joué dans une ligue université au cégep, au secondaire. Oui,
mais chaque époque a son affaire.
Ben, je sais bien, mais oui, c'est correct. Ben oui, c'est sûr, tu sais, Aurel Juliette, il devait
pas... J'allais dire, Joe Malone était bon pareil, Chris, dans le temps, si on peut pas...
Je comprends, mais son snapshot ne va pas être aussi fort que... En tout cas, fait
non,
pas.
Mais tu sais...
Non, mais en tout cas, je suis admiratif. Devant ces acteurs-actrices-là qui sont bons. Puis, ce qui m'avait frappé, c'est que la compétition, elle existe. Il veut pas. Mais à un moment donné, j'ai vu une finale où est-ce que c'était clair que c'était la coupe charade qui se décidait dans cette improvisation-là. Puis à un moment donné, il restait 2-3 minutes et tu sentais, c'était gros comme un piano qu'il y en a un qui tirait le troc. Là. C'était lui qui l'avait, la patente. Puis l'autre à côté, elle avait 3 minutes pour revirer ça de bord. Ben non. Elle servait à la soupe en disant « on fait un show ». Paf! Paf! Puis elle donnait à l'autre. Ça a monté comme ça. Écoute, j'en avais les larmes aux yeux tellement comment c'était, à quel point c'était beau. Tu sais, c'est intégré dans leur tête, on fait un show, puis c'est ça qu'ils font. Puis ils sont généreux. Ah non, et tu le vois, là, comment je suis admiratif. Puis d'autant plus que je serais plus capable de faire ça. Tu sais, je les regarde, puis je fais « oh, Seigneur, non ». C'est un muscle, ça. Hein?
Oui, mais tu l'as encore. C'est pas... Ouais, mais... Tu sais, je comprends qu'il... Mais ne serait-ce que juste là, ou quand on se voit, puis je suis sûr que t'es pareil avec d'autres mondes, là, c'est pas juste... Je suis pas exclusif.
Non, juste avec toi.
Je suis pas, je suis pas exclusif à ça de... Ça va commencer menu, mais ça prend pas de temps qu'il y a comme une implosion-explosion de...
Oui.
Hey, telle affaire, puis un mot... C'est ça que j'aime avec toi aussi, c'est comme je vais te dire un mot... Pouf, tu prends l'autoroute. Ça, mais je pense que tu as toujours été comme ça. Sûrement que peut-être la LNI t'a aidé à... Je dis oui. Ou tu sais, j'accepte le... Tu sais, là.
Oui, c'est ça, mais même à ça, je me rappelle, j'avais vu des games, puis je faisais... J'ai dit non, là. Mm. Tu sais, parce que veux pas, il y a un réflexe de...
Ben, des fois, oui, puis tu vois, oui, puis tu veux puncher, puis tu veux faire ton affaire, puis là, t'es Chris.
Puis t'as pas écouté ce qu'il a dit, puis
t'es pas en tout, parce que t'attends...
Dehors, restez. Hey, deux fois. Écoute, il y a deux fois. Le chien, j'avais amené mes parents là. C'était pas facile. C'était facile de les spotter. Chris, il était venu avec mon oncle Ben, ma tante Irène. Il y avait 4 têtes blanches au spectrum. C'était mon père puis mon oncle, tu sais. Puis mes deux tantes, ma mère, ma tante. J'arrive sur la glace, puis là, je me disais, qu'est-ce qu'il faut que je monte à mon père que je suis bon? C'est première impro, c'est après 21 secondes. Chut! Expulsé, qu'on laisse. Après, écoute, Denis Bouchard, esti, il broyait, il m'acheteriait, esti, en se disant, Chris, il voulait trop, tu sais. Puis là, je me vois encore arriver habillé en civil, j'avais enlevé mes affaires, puis je suis arrivé à la table de mon père, puis tiens, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai dit, j'ai été mis dehors. Chris, mes parents qui étaient partis de Québec, esti, 3 heures de char, Chris, mon père avait 75 ans, tu sais, mais je voulais trop, esti, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Je dis que c'est tellement bon. C'est tellement bon.
Oh, si bon.
Ah, j'adore ça. Fait que t'avais déjà... Mais ça veut dire que tu vas te rencontrer tellement de monde juste avec ça. Puis la seule raison que je veux revenir encore à tes mousquetaires, c'est que ça veut... Non, juste parce que... 5 ans?
Oui.
Tous les jours?
Oui.
Ça veut dire que vous avez comme passé le bottin de l'Union...
Au complet.
Plus qu'une fois, tu sais.
Ah, oui, c'est
sûr. C'est comme un...
Oui, ben oui.
Un Rolodex, là. Tu...
Oui.
Fait que t'as vu tout le monde.
Pas mal. Puis du beau monde, là.
Ouais,
t'sais, qu'est-ce que tu veux? Puis il n'y a personne qui refusait, là, moi, de dire. Là. On a vu des beaux, là. Puis souvent, ce qui arrivait, c'est que il y en avait toujours un qu'un connaissait. T'sais, si c'était un que Chantal connaissait, ou bien un c'était Gaston, l'autre c'était moi, puis t'sais, ça faisait toujours une espèce d'émulation. Puis je pense que les gens aimaient ça, venir nous voir. Parce qu'on n'était pas méchants, puis on sortait toujours des anecdotes le fun. Chantal était drôle, ça n'avait pas de bon sens. Puis évidemment, ça nous amenait dans son giron, je comprends bien. On embarquait avec elle, puis elle était drôle, ça n'avait pas de bon sens. Puis c'est ça. Puis je pense qu'on avait beaucoup de respect pour nos invités. Ce qui m'a toujours un petit peu aigri, c'est qu'à un moment donné, Louise Cousineau de la presse nous descendait régulièrement. Elle disait qu'on était pénible, puis elle disait qu'il y avait une personne qui est intelligente dans les trois, puis c'était pas un gars. Alors, tu sais, c'est bon, merci. Puis, quelqu'un, à un moment donné, nous avait comparé aux tannants, en disant, c'est les tannants de Radio-Canada. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, les gens qui l'ont jamais vu, tu sais, j'ai vu Jean-Sébastien Girard, à un moment donné, il avait dit ça, ah, les tannants de Radio-Canada, puis ça m'avait fait de la peine.
À cause?
Ben parce qu'on faisait des sketchs aussi, tu sais, puis on s'amusait, puis on déconnait, puis comme...
Oui, mais comprends, pourquoi ça te faisait...
c'est parce que les tannants, je trouvais que c'était un niveau que... au niveau de l'humour, je trouvais qu'on allait un petit peu plus loin
que...
C'est ça. Mais sans rien enlever à ces trois personnes-là, Shirley Théroux, écoutez, est dure à haïr, moi, vous dire. C'est la personne la plus fine que j'ai rencontrée, là. Puis Pierre Marcotte est un gentleman. L'autre, je le connaissais moins, là, Denis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas personnel, là.
Oh, oui.
C'est-à-dire que c'était la structure de l'émission que j'aimais moins.
Okay.
Mais là, tabarouette. Nous autres, à un moment donné, on avait Monseigneur Turcotte, Josh Groban est venu, puis à peu près tout le monde, Michel Dumont, Michel Tremblay, Nézin Séguin, tout le monde est passé. T'sais, d'ailleurs, quand on écoutait les enfants de la télé au début, si tu veux...
C'était vous autres.
On nous voyait souvent à tabarouette, parce que si tu veux, tout le monde était passé, puis chacun, c'était un peu comme toi, là, ce que tu fais là. On faisait parler des gens comme ça. Donc, des fois, il sortait une bebelle là, qui était...
Y a-tu du monde que tu as réussi à rencontrer là-dessus, que sinon, que tu étais content ou tu avais comme un... Peut-être une petite admiration ou un petit quelque chose de... Tu fais comme un Chris.
Michel Tremblay, j'aimais jouer dans ses pièces et tout ça. Alors, de le rencontrer, moi, j'étais tellement...
Mais c'est ça le privilège aussi, des fois. T'as comme un... Oh, Chris.
Ben oui. Puis, il venait des... Là, c'est parce que j'ai de la misère avec les
non,
noms. Là, dès que je me réveille et que je m'aperçois, c'est qui lui? Son nom, là, en tout cas, peu importe, il était venu.
J'ai Olial, mais je sais que c'est pas lui.
Non, c'est pas lui, pas tout à fait. Il y en a qui vont rire de moi. Là. J'ai de la difficulté à me souvenir des noms souvent. Mais il y a beaucoup de gens qui venaient nous voir, puis ils étaient contents de venir.
D'être là.
Fait que c'était le fun, tu sais. Michel Rivard est venu, Paul Pichet est venu, je me souviens de Roger Léger, puis c'était le fun, parce que c'était du monde qu'on aimait, puis avec qui on pouvait avoir une complicité, tu comprends? Puis ça a duré 5 ans, mais à la fin, j'étais épuisé.
Mais c'était quand même, c'était beaucoup de travail.
Oui, parce que ça nous demandait, comment je pourrais dire, tu sais, l'émission commençait toujours par une espèce de « Hey, tu vis telle affaire », puis on se donnait toujours comme devoir d'arriver avec une anecdote ou avec une histoire, une petite bebelle qui était amusante en début, tu sais. Je te dis pas que c'était obligatoire, mais tu sais, quand t'es
là,
on essayait de... Mais ça voulait dire que je me prenais dans la rue, puis je regardais quelque chose, puis voir si je pouvais trouver une... J'étais fatigué, là. Puis c'est pour ça que j'ai tant d'admiration pour Chantal, parce qu'elle continue à faire ce genre de travail-là. Tu sais, quand tu regardes avec, Infoman, puis...
C'est toutes les shows, en plus. S'il y a un juge à avoir à Radio-Canada,
oui, c'est
quelque
Chantal,
part, elle fait partie de...
Ben oui,
elle fait partie du groupe. Mais
bon. En même temps,
mais
une grande expertise. Ouais. Alors, tu sais, mais moi, j'avais pas cette connaissance-là, mettons, de la musique ou d'un paquet d'affaires, tu sais. Alors, il fallait que j'en fasse des recherches, tu sais, la fois où j'avais reçu... Denise Bombardier, puis j'y parlais de son livre, j'ai besoin de te dire que j'avais lu ses 6 avant, puis que, et sacrement, puis oh boy, j'étais mouillé en avant pas en arrière, tu peux être sûr, parce que ça me tentait pas de me faire planter en public, puis de me faire dire, vous n'avez pas lu mon livre. Non, je les avais lus en tabarcinet, tu sais, puis mais en même temps, c'est des beaux exercices, tu sais, c'est quand même des rencontres de calibre, là, de passer, parce que c'était une heure, ils arrivaient, puis ils ont passé une heure avec ces gens-là, tu sais, puis si des fois, on jasait avec eux autres pendant les annonces, ou bien, tu sais, c'est, tu sais, puis, oh mon Dieu, ça, c'est drôle, il était venu à un moment donné, Mina Mulroney,
la femme de Brian.
Puis je savais que c'était des amis de Ronald Reagan, puis de Nancy Reagan, tout ça. Puis, à un moment donné, tu comprends que moi, Mme Mulroney, à part le respect que j'ai pour la grande dame que c'est, puis son mari, même si j'aurais jamais voté pour lui, ça a quand même été un grand premier ministre, je veux dire, la TPS, l'apartheid, à quel point il a travaillé là-dessus, c'est quand même un homme respectable. Fait que, tu sais, madame est là, mais à un moment donné, tu sais pas quoi y dire, tu sais, pas pour y parler de lutte, tu sais, bon... Comme on
peut-être été surpris.
Puis à un moment donné, pendant une annonce, je savais plus quoi dire. Puis il fallait être gentil quand même. Ces gens-là se déplaçaient pour venir avec nous autres, puis ils étaient fines comme toutes. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben moi, il parlait de Ronald Reagan, qu'est-ce que tu veux? C'est des amis. Puis je savais que M. Reagan venait de rentrer à l'hôpital. Puis à un moment donné, je disais, ben oui, comme vous connaissez bien M. Reagan, dernièrement, oui, comment apprend ça, Mme Reagan, qui soit rentrée à l'hôpital? À un moment donné, j'ai deux larmes qui me sont coulées. Je me suis dit, Chris, tu es en train de jaser du président des États-Unis comme si c'était notre voisin? Puis, tu sais, je me disais, mais où c'est que je suis, pour l'amour? Mais non, j'étais là. Puis, c'est une expérience dont je vais me souvenir longtemps. Je parlais avec la femme du premier ministre, puis...
Peut-être si tu avais parlé de Larry Moquin. Ou tu...
c'est un carapène!
Ah! Écoute!
Larry Moquin! Sacre mouille! Là, tu recules, là. Les gars avec les costumes de bain jusqu'au nombril,
oui,
qui montaient jusque-là.
Oui. Mais c'est ça, la beauté avec toi, vois-tu? Tu lances un nom, puis tu fais comme toutes tes attrapes, puis tu fais « Ah! T'as venu! »
Écoute, tabarouette. Mais on est à la lutte ensemble.
Oui, c'est vrai.
Colique, maudit qu'on avait ri. Parce qu'on a la même... comment je pourrais dire? Moi, j'ai une admiration pour ces gens-là, parce que c'est des acrobates, c'est des athlètes. Mais calvasse, faut-moi pas coller que c'est vrai, là, Chris. Là. Un, deux, trois, il monte tout le temps. Le gars, il sort un lavabo, hostie, dans le dessus d'un ring. Come on! T'sais, niaise-moi pas, hostie, t'sais. Mais... Puis à un moment donné, je me souviendrai longtemps, il y avait un des lutteurs qui avait dit... Il faisait l'espèce de gars sexy au bout, tu sais, puis il avait dit... « Welcome, Montreal. »
C'est Val Venus.
C'est ça.
Val Venus. Hello, hello, ladies.
Ladies. Puis il avait dit, « I scored more than Maurice Richard. » Écoute, on l'avait ri pendant 5 minutes. Mais c'est, l'affaire dans ça, c'est que moi, de la lutte, je trouve ça drôle, mais après 10 minutes, je t'en dis.
Oui.
C'est parce que je fais, come on, là. Crève-moi pas pour un cave. Tu sais.
Ben, je te dirais qu'aujourd'hui, c'est plus porté sur le spectacle.
Ben oui.
La difficulté, je pense, qu'ils ont eue, ben, je pense, je le sais, là, à force d'avoir écouté des documentaires et tout ça, c'est que tu avais le pré-télé où il y avait souvent des vrais matchs, du catch. Puis après ça, il y a eu télé où là, whoop, on va commencer à mettre du spectacle parce que c'est plate en esti, deux gars humides qui se frottent.
Une chute limitée à 45 minutes. Il se pognait-tu le bedon, toi, chose? Écoute, c'était plate pour mourir.
Fait que là, ça, ils ont comme pour jouer avec ça, mais à un moment donné, la télé, trop de caméras.
Ah oui, mais là, on
là, voyait, là, là, la transition, oui, c'est exactement. Ah ouais, la transition commence à être dure, puis, tu sais, je sais ça de source sûre que les plus vieux, comme ils ont appris que c'était la lutte, on garde le secret, ça reste si, tu sais, puis les plus jeunes disent, ouais, mais là, c'est plus ça, là, faut changer. Tu sais, on a eu le bout de tampon difficile.
Moi, j'avais tellement de clochers là-dessus, parce que mon frère était médecin, malheureusement, il est décédé, puis mon frère travaillait à l'urgence, il était urgentologue pendant un certain temps, où il était, peu importe, pendant son internat, etc., je me souviens plus. Puis à un moment donné, il arrive à la maison, puis il dit, hey, tu sais pas qui c'est que j'ai vu. Dans le même char, il y avait Johnny Rougeau, la bottine Tyler, Maurice Vachon, puis un des frères Leduc. Il y avait eu un accident de char. Tu fais, ah oh ben non, dans le même char. Fait que là, ça m'a fait, ah oh ben là, c'est frémé. Tu sais, j'avais 13-14 ans, mais il y avait 10 ans plus vieux que moi. Là, t'sais. Puis c'est là que j'avais fait, ah oh non, c'est arrangé. Mais en même temps, puis tu vois.
Mais même dans ce temps-là, dans certains territoires, si tu te faisais pogner à être dans le même char avec des gentils méchants, dehors.
Ah oui?
T'es plus dans le terrain. Ben oui, parce qu'il dit, Chris, c'est ceux qui ont payé ce vendredi puis qui veulent revenir l'autre vendredi, vous voient dans le même char, c'est fini pour tout le monde.
Ah oui, c'est
vous
ça.
Venez, ce qui t'est arrivé, là.
Mais pas
là,
moi,
vous,
mais,
non, non, mais dans le sens, vous venez de. T'sais, vous venez de briser la magie.
Oui,
là.
C'est ça.
Je sais qu'il y avait certains territoires que c'était très. Oui, non, mais regarde.
Je sais que Johnny Rougeau était là. Les trois autres, je les ai peut-être inventés, voir deux méchants puis deux bons, mais
c'était ça. Fait que je sais qu'il y avait certains territoires qui étaient très stricts. Puis c'était comme Christ, prends pas le même char. Tarzan, la bottine, ils seront pas avec Dino Bravo, là.
Non, non,
faut que ce soit dans deux chars. Alors, faut qu'il y ait des Richmond soit avec.
Ah, ben oui, c'est sûr.
Avec d'argent.
C'est drôle parce que moi, j'avais tourné dans une émission qui s'appelait Là, tu parles. Puis, maudit qu'on avait du fun là-dedans. Maudit
oui,
que c'était
rire
le fun.
En canne, man. Jamais je m'oublie. Là, tu parles, Chris.
C'est bien. Mais...
il y avait peut-être un potentiel. Les rires en canne est venu tuer tout le monde.
Ah, oui, peut-être. Mais en tout cas, peu importe.
Mais t'as eu du plaisir.
C'est là que j'ai connu. Patrick Huard, puis bon, Sylvie Boucher, puis...
C'était quoi la prémisse? C'était-tu une émission
Antoine
de radio?
Durand. C'était...
Antoine. Oui. Antoine est venu, hein, tu sais qu'il est venu.
Ah oui, ben, Antoine, on l'aime tout d'amour. Puis, c'est quoi, non? C'était quoi, non? C'était la comme prémisse... une émission de TV.
Ah, c'était une émission de TV.
C'était
radio,
Sylvie Boucher, je pense, qui était l'animatrice avec Pat, peu importe, je me souviens plus. Puis... c'était les mêmes patterns que du tac au tac. C'était les mêmes personnages.
Il faut ramener, d'ailleurs. Il faut faire un reboot de ça, calice.
Mais, à un moment donné, on invitait des vraies personnes. Tu sais, comme un donné, Pedro Martinez est venu. Mm. Puis, il y a eu Jacques Rougeau, fils, là.
Jacques, oui.
Fin. Ça n'a pas de bon sens. Puis, à un moment donné, c'était longtemps. Puis, à un moment donné, on s'est mis à jaser de « c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? » Puis, à un moment donné, il dit... je ne veux pas faire une insulte à votre intelligence, hein? Tu sais, en voulant dire, Chris, je ne veux même pas vous dire que c'est vrai. Mais à un moment donné, dans l'émission, je faisais une espèce de gars un peu niaiseux, puis j'avais dit, hey, la prise d'hélicoptère, c'est-tu vrai, ça? Et dans l'émission, il me faisait la prise d'hélicoptère. Calice, j'ai eu mal au cœur pendant 3 jours. Asti qui m'a brossé la main. Oh! J'ai eu peur de m'envoler tellement qu'il m'a pogné d'aplomb. À un moment donné, il me dit, veux-tu qu'on fasse quelque chose de pété? Il dit, c'est toi qui vas me faire flipper. Puis, il y avait une façon que, bon, tu sais, je suis pas faible, là, mais je suis un gars de 170 livres, là, puis je mesure 5 pieds 9, là, je ne ferais pas peur à grand monde. Puis, à un moment donné, j'ai trouvé une façon, il m'a montré la façon de le faire flipper, puis là, je l'ai fait flipper comme si j'étais sacre mort, j'étais fier, mais c'est des acrobates.
C'est des acrobates, c'est juste qu'on oublie, ben, moins là, mais je dis, c'était 300 jours par année sur la route.
Ah, oui.
À faire ça tout le temps. Fait qu'à un moment donné, le corps...
Il ne peut pas faire autrement. Ben non,
tu peux pas avoir Abdullah de Butcher.
Ben non.
S'asseoir sur ta face, 6 jours semaine, calice, 2 fois le samedi. Puis que... t'as pas le nez rendu ici.
Puis qu'il a pas pris sa douche entre les deux. Ah, oh, qu'il avait l'air mal. Il avait l'air sale, là. Puis on avait un gros méchant, là. Oh, mon Dieu, que c'était lettre. Puis, mais en même temps, mais moi, ce qui me fait de la peine, c'est de voir des gens qui y croient dur comme fer.
Ils vont y croire, je te dirais, comme à cette heure-là, comme ceux qui vont écouter les soaps l'après-midi.
Ah oui?
C'est la même affaire.
Tu penses?
Je te le dis. Okay. Je te dis, j'étais dernièrement, là, il y avait... parce que mon frère est un grand fan.
Oui,
puis...
oui.
Ah, j'ai des billets, là, des bons billets pour aller. Là, là. J'ai dit, on va, puis j'ai amené mon gars, OK?
Ouais.
Pas un fan, tu sais. Puis j'ai dit, mais j'ai dit, écoute, viens live. Puis il a dû faire, lui aussi, il a fait, c'était un esti de bon show.
Ben oui!
Tu sais, là, on était là, 15 ok, va affecter.
Ah oui.
Puis si tu veux vraiment rire, va voir, ben rire. Puis avoir du plaisir, là, avec... t'es-tu la lutte de sol, tu es déjà allé?
Non.
Et Chris.
Ça, c'est spécial, hein?
Oui, mais c'est magique.
Ah oui?
Ah, j'ai eu un fun noir.
Ah oui?
Un fun noir. Allez,
tu parles de ton frère.
Ouais.
J'ai une anecdote. Je nous vois sur Kazan 24.
Oui.
Dans le temps des éliminatoires.
Oui.
Puis à un moment donné, on a mis une TV pour regarder ton frère gagner la Coupe Stanley ou du moins faire une game de la Coupe Stanley.
Yes, ouais,
c'était la première fois de ma vie que je voyais ça, voir un joueur sa glace avec son frère à côté.
Oui, c'est vrai.
Puis on prenait l'autre équipe.
Oui.
Ah non, écoute, ben, j'étais tellement fier. Je me disais, tabarnouche, c'est la première fois que je vis ça. Écoute.
Ben, c'était le fun, puis je pouvais jamais y aller.
Mais j'imagine.
Non, mais c'était souvent ça. Puis je pense que j'ai eu une opportunité d'y aller, puis à un moment donné, ça n'a pas marché. Fait que j'ai jamais pu le voir gagner live. Fait que c'était comme ça. Soit on tournait, puis on était chanceux, puis c'est OK, on peut regarder un peu. Ça a dû être Bourbonnais qui réalisait ces épisodes-là.
C'est possible.
Parce que je pense pas que c'est...
Non, il t'a pas.
Parlons donc, ben gars, cloc. On va être obligé d'arrêter. Ça fait déjà 1h30, Pitts. Je te dis.
Mais ça commence.
Je te dis. Mais... ben attends, on va attendre qu'il vienne cogner puis qu'il nous crise.
OK.
Ouais, mais qu'est-ce que j'ai... Ah, Christ, j'ai perdu. Ouais, mais ben, aussi, je voulais aller avec ça. Ben, c'est pas grave, j'ai complètement oublié.
Ça, c'était le fun, Bourbonnais.
Ben, le plaisir de travailler avec lui, là, puis vous autres, parce que c'était vraiment une belle gang,
ben oui.
Caserne quand même, puis ça me surprend tout le temps, mais je suis pas surpris, mais... ça me réconforte des fois sur l'humanité, ça, ces moments-là, de... Tu sais, j'arrive, moi, j'étais tout jeune, je sors de l'école, ça faisait un an, OK, j'ai fait une série, puis là, c'était ma deuxième série, tu sais. Accueilli tout de suite, on a une différence d'âge, pas grave. Tu sais, là, puis c'est le fun, ça, parce que j'ai déjà fait des job-in dans des usines, des affaires, puis... Tu le sais quand t'es nouveau.
Oh, oui, oui.
C'est correct, tu sais, j'ai rien contre, puis ils font, OK, fais tes preuves, puis ils viennent nous parler. Mais Chris, avec vous autres, avec, en tout cas, dans ce job-là, jusqu'à date, quand j'ai commencé, il y avait tout le temps un... Des fois plus que d'autres, là, mais je me souviens juste que, fait que parler avec toi, c'était la même affaire, là. Ah, mais oui. J'avais 23 ans, là, tu sais, puis je commence, mais c'était comme, viens, on va rire, puis on va avoir du fun.
Mais le pire, c'est que je me souvenais pas que t'étais jeune.
Ouais.
T'étais déjà vieux.
J'avais déjà mon ton aigri.
Ah non, non. T'avais l'air, oh mon Dieu, que je vais dire, oh, quelle mauvaise
mais
âme.
C'est ça qui était le fun. Ben oui. Pour vrai, tu sais, là.
Je pense qu'à quelque part, on se laissait embarquer aussi dans le trip des pompiers.
Oui, ça, c'est
tu sais, il y avait comme un trip d'équipe. Ouais. Pis, mais, là, je ne révélerai pas une grande
un grand secret.
Les shows qui marchent bien, c'est les shows où le monde s'entend bien.
Oui, c'est clair.
Puis... Et c'est drôle parce que, évidemment, à l'âge que j'ai, je travaille moins. C'est normal. Tu sais, je veux dire, des rôles de gars de mon âge, c'est des grands-pères qui viennent dire au petit-fils, fais pas ça. Là. Mais il reste que c'est de ça que je m'ennuie, cette espèce de camaraderie,
la gang,
de plaisir à rire. Puis d'ailleurs, on travaille ensemble parce que je te dirige en doublage où tu es très mauvais. Puis c'est ça que j'aime, c'est que je revois des vous êtes une quinzaine à peu près dans la série. Puis chaque fois que quelqu'un arrive, il y a toujours été Antoine Durand qui arrive. Puis là, trois ou quatre anecdotes innocentes, trois ou quatre affaires. Puis ce genre de discussion-là, ça fait trois ou quatre fois que j'ai envie de dire, bon, là, il faut y aller. Là, parce que j'ai l'impression que...
Mais c'est ce qu'il faut tout le temps dire aux techniciens de ça en disant, attends pas qu'on arrête de parler. On travaillera jamais. Faut que tu roules l'affaire. Il faut travailler, il faut le faire.
Mais
c'est ça qui est le fun.
C'est ça. Puis en même temps, je me trouve privilégié de diriger en doublage une série comique. Et j'ai
C'est Total Drama Island. C'est quoi? L'île des défis extrêmes.
Ça dure depuis 13 ans.
Exact. Tu fais depuis le début?
Oui. Au début, je l'adaptais même.
Okay.
Mais ça dure depuis 13 ans. C'est que l'émission, c'est une émission pour enfants. Là. C'est le public cible, ça aurait 12 ans. Mais c'est de l'humour d'adulte. Alors, c'est pour permettre aux parents d'écouter ça puis de s'amuser en même temps que les enfants. Alors, c'est évident que l'humour, il faut qu'on le travaille. Puis tu sais là, comment on porte attention à ça. Mais quand on fait de l'humour, inévitablement, on se fait rire, tu comprends bien. Puis Dieu sait qu'on en rit une galette en astuce. Heureusement que les propriétaires du studio sont pas là parce que je l'aurais pu à Dieu, moi, de dire.
Ben,
non,
on finit à l'heure, puis c'est agréable. Fait que ça, c'est quelque chose que, comme ça fait pas longtemps, moi, ça fait... À peine si c'est moi, je dirige, tu sais. Mais c'est comme une de mes règles dans mon top 4 de « je veux que ça soit agréable ».
Ben oui.
Surpris. Pas tout dans le, tu sais, puis à chacun, puis c'est correct, là. Mais moi, je veux, ouais, mais dans la mesure du possible, on s'entend, mais que ça soit, oui, t'as travaillé, mais que ça a été crissement le fun.
Ben oui. Moi, c'est drôle, je commence jamais une boucle avant que l'acteur ait pas ri, ou l'actrice. Il faut toujours qu'il rie avant. J'ai fait toujours rire avant. On s'arrange pour que ça rie.
Je me souviens pas avoir ri.
Avec moi?
Non.
Non? Tabarnak. Écoute, il t'en manque des petits bouts, mon Louis. Il t'en manque des petits bouts. Non, mais c'est pas une règle d'or, là. C'est pas écrit qu'on commence pas tant que t'as pas ri. Mais c'est parce que...
Ça met un mood, ça set un mood.
C'est parce que le doublage, c'est quelque chose qui... C'est un peu stressant. Il y a une bande rythmo, faut pas que tu te trompes. Il faut que tu suives. Il y a un petit coup, un petit coup. Mais dès que les gens... sont détendus, c'est comme dans n'importe quoi. Tu sais, quand à un moment donné, quelqu'un vient, il performe trois fois mieux. T'sais, c'est une impression que j'ai, en tout cas, mais... Parce que...
Ça a été comme ça, ta sodomie, toi? J'adore ça. Hey, moi, je vais finir pareil, puis okay. sur cette anecdote-là, quand même, de... Je vais la compter, si tu veux pas la compter, de la célèbre photo d'équipe. De 4...
la première année, parce que moi, j'ai juste fait un an.
Fait que si tu veux pas embarquer, je comprends. Et moi, ça va me faire plaisir parce que j'en ai pas vécu d'autres photos d'équipe comme ça. Je vais être bien honnête, j'en
parce
ai
que
pas
sans
vécu.
Sans donner le nom, il y avait une personne sur l'équipe qui était moodie, qui avait un caractère.
Je vais le donner le nom parce que c'est quelqu'un que j'aime puis que j'ai revu puis j'ai travaillé.
Okay.
Fait que ça me dérange pas du tout. Germain. C'est Germain, okay, Wood,
Germain Wood.
Que j'adore puis qu'on a travaillé puis que c'est super.
Non, puis écoute, tout le monde, c'est dur d'ailleurs Germain, c'est un gars qu'on adore. C'est juste que cette journée-là, je pense que Germain n'était pas de bonne humeur. Puis c'était la photo d'équipe. Puis ça, une photo d'équipe dans une série, là, c'est qu'il y a du monde en Saint-Cypoplette. Il y a 60 personnes à peu près. Puis, évidemment, on avait notre bon Francis Redé, M. Joke, qui avait décidé de faire une excellente joke. C'est-à-dire que...
Mais avant, juste pour montrer dans la tête des gens, la photo, on la prend devant la caserne.
C'est ça.
Fait qu'on est tout le monde devant la caserne avec les camions derrière nous autres.
Et au deuxième étage, évidemment, il y a une fenêtre.
Il y a les fenêtres parce que c'est les chambres. Les,
c'est ça,
les,
c'est ça, tu sais, puis la cuisine, peu importe. Exact. Et Francis a une excellente idée, c'est de prendre une bonne chaudière d'eau et de crisser ça sur tout le monde en bas.
Et je me souviens de, on est presque prêt, Francis qui fait, attendez, j'ai oublié quelque chose.
Bon, c'est la même voix.
Puis il s'est arrangé avec le photographe.
Ah oui!
Ben oui!
Ça, je ne savais pas!
Ben oui, parce que sinon, il n'y aurait pas eu de photo.
OK. Fait que là, mon Francis monte en haut avec une chaudière pleine d'eau. Il parle à la fenêtre, il regarde pas. Il y a Chris en bas, 60 personnes. L'eau ne tombe que sur une personne, jamais. Plouche, si. Écoute, tu sais, une joke de Bugs Bunny.
Oui.
Et là, les cheveux descendent. Germain est mouillé comme un calice.
Il était le coyote. Il était le coyote.
Écoute, on l'aurait pratiqué 6 mois. Ça aurait pris 8 costumiers puis 200 costumes. On n'aurait jamais été capable de faire ça. Et là, Germain... Puis là, un peu plus tard, la photo se prend, puis tout. Puis à un moment donné...
Mais je l'ai encore, la photo!
Ah oui!
Ben oui! Après, j'aurais dû l'amener.
Ah, oui.
Je
suis
sûr que je l'ai encore parce que tout le monde est là. Germain qui est là.
Il est pas content. Puis là, il monte en haut. Puis je comprends qu'il soit encore lisse. Là, il monte en haut, puis à un moment donné, on rit encore. Puis tu sais, Germain, quand il était choqué, il était peuré un petit peu. Puis à un moment donné, il me regarde, puis je riais. « Tu sais, c'est drôle, toi! » Fait que là, je me souviens encore d'avoir répondu « Pas beaucoup! J'ai chié dans mes culottes, c'est quoi tu peux? Pas beaucoup! » Mais écoute, c'est une anecdote, tu sais, puis Germain,
ben je oui, l'aime, correct, puis là, là,
mais que... écoute, probablement que j'aurais fait la même baboune, si
ben oui.
Tu sais, tu reçois une chaudière d'eau...
Ben c'est parce qu'il était tout seul. Ben oui. C'est comme s'il avait été ciblé. L'autre, il veut arroser tout le monde.
Mais c'est bébé, hein. Mais tu vois, écoute, on a travaillé là-dedans trois. Ben, toi, t'es rien qu'un an. C'est la deuxième année que ça s'est mis à monter, là, les codes d'écoute. Tout ça, ça, à un moment donné, le jeu, c'est comme un petit peu.
Le cancer était parti.
À un moment donné, il n'y avait plus de malaise.
En rémission.
Dans le calvaire. Ouf, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça a fait calvaire. Il y a moins de monde à caserne. Ça fait du bien.
Louis-Georges, un gros merci d'avoir dit oui.
Ben, ça
beaucoup. Puis on va se reprendre parce qu'on n'a même pas. On n'a même pas égratigné à surface, Chris.
on n'est même pas allé où est-ce que tu voulais.
Quand on parle. Oui, exactement.
Tu voulais aller sur les anciens humoristes, que, ben, Roméo Pérus.
Exactement, puis le musical, que, toutes ces affaires-là.
Puis que j'ai eu la chance de voir, moi, live.
Oui.
Roméo Pérus.
On va se reprendre.
OK.
Merci.
Ça fait plaisir.